Bonjour tout le monde. Donc je commence d'abord par remercier pour la 8e fois l'Université pour tous de Châlons et plus spécialement M. Fournier de me réinviter.
Vous êtes invité permanent, vous le savez.
Le seul problème, c'est que j'ai commencé comme étant vraiment le spécialiste d'un domaine que j'avais la prétention de maîtriser, qui était l'histoire des sciences, et de plus en plus sous la pression amicale et quelques bons repas, pas très insistantes après. Au début, c'était très insistant. Puis après, voilà. Puis ensuite, avec le vécu de ma famille, puisque ma fille, je vous l'ai déjà dit pour ceux qui me connaissent depuis 8 ans, était interne à l'hôpital, le grand hôpital de Dijon. Elle est venue travailler ici à Châlons pour soigner des patients. Et donc, je commençais à avoir des attaches indirectes avec Châlons sans jamais avoir visité Châlons. Voilà. Et donc, quand j'ai eu la première invitation, j'ai été très très content. Et donc, le seul problème, c'est que M. Fournier a commencé par me demander des conférences sur les sciences arabes. Ensuite, petit à petit, avec nos discussions incontrôlées pendant les repas, il a appris que je pouvais parler des printemps arabes, des croisades vues par les arabes. Et puis là, il m'a dit, pourquoi vous ne parlerez pas de l'islam en France ? Première remarque importante, on discute toujours sur la question de faut-il parler de l'islam de France ou en France. Alors moi j'ai opté pendant toute ma conférence pour en France. Je vous dirai pourquoi dans les discussions, s'il y a une discussion, parce que même les partisans de l'islam, quelle que soit sa tendance, même la plus dure, ne sont pas favorables à l'appellation islam de France. Mais moi donc, je suis d'accord avec eux, mais pour d'autres raisons. Pour des raisons en particulier historiques. Alors, aujourd'hui, malgré le titre, je ne vais pas vous parler de Dieu. Pour le moment, on va le laisser un peu absent, parce que ce n'est pas lui qui nous pose problème. Ce sont ses fidèles. Donc je vous parlerai des fidèles. Je ne vous parlerai pas de science, parce qu'apparemment, aujourd'hui, on peut se passer des sciences provisoirement, même si les activités scientifiques vont jouer un rôle de contrepoids aux fièvres qui vont, mobiliser des gens les uns contre les autres. Les sciences vont être des passerelles. Et je ne vous parlerai pas de ce qui fâche, évidemment, du djihadisme. Pour une raison très simple, c'est que j'ai un collègue éminent qui va parler du djihadisme. Et donc, ça m'évite de dire des bêtises d'abord, parce que je ne l'ai pas préparé. Et puis, c'est une question à multiples facettes. Et je suis venu d'ailleurs pour apprendre et écouter attentivement ce que va dire mon collègue. Alors, le titre est trompeur, parce que République, d'accord, je parlerai de la République. Laïcité, d'accord. Islam en France, d'accord. Mais état des lieux, c'est très prétentieux. Et perspective, je ne suis pas Madame Soleil. État des lieux et perspective, c'est juste la manie des universitaires de faire des titres bien balancés. Il faut qu'il y ait deux points et puis quelque chose, comme une conclusion qui est la vérité. Voilà. Bon. Donc vous avez compris la technique. Par contre, je vais insister par déformation professionnelle sur le principe qui est bien connu pour comprendre le présent et préparer sainement l'avenir. Il faut connaître le passé. Donc, dans cette conférence, je vais vous présenter les éléments du puzzle que l'on n'évoque jamais dans le journal de 20 heures. Qui est, quels sont les éléments historiques qui ont fait rencontrer la France et l'islam? Ou le christianisme de France et l'islam? Ou les Français et les musulmans? Donc, je vous donnerai des tas d'éléments sous forme de moments, un peu comme si c'était un petit film, documentaire. Et je ne prendrai pas position, je vous donnerai quelques éléments. Mais vous les intégrez pour, en particulier, la deuxième partie de la conférence, qui sera, elle, beaucoup plus éclairante, c'est sûr. Là, ce sont des bases, si vous voulez. Vous voyez, on reste toujours pédagogue, hein, quand on a été professeur. Bien. Alors, d'abord, un élément que beaucoup de collègues et d'amis en France ne comprennent pas, c'est le fait que la laïcité est spontanément, chez la majorité des musulmans, de l'espace musulman aujourd'hui, est rejetée, le terme même est rejeté, parce qu'il est synonyme de quelque chose. Alors que l'histoire de la civilisation de l'islam a connu une première laïcité, qu'on n'a pas le droit de appeler laïcité parce que le mot est français, mais elle a connu la sécularité. Alors c'est un grand paradoxe parce que c'est une civilisation construite sur une religion. Tous ceux qui prennent le pouvoir, ils vont prendre le pouvoir par la religion, mais ils vont gouverner essentiellement par la sécularité. Ça paraît bizarre. Bon, la sécularité, si vous voulez, la sécularité, c'est un peu, c'est pas tout à fait la laïcité, mais c'est une gestion, entre guillemets, neutre, d'une population qui est tellement diverse que c'est nécessaire de ne pas la gouverner par la religion. Voilà, on essaiera de la gouverner par la religion, mais en général, on réussit pas toujours, sauf pendant les périodes de crise, comme celle d'aujourd'hui. Alors, la sécularité dans l'islam premier. Dans l'islam premier, c'est-à-dire dans les textes fondamentaux, dans la pratique de tous les jours et dans l'élaboration du comportement du musulman à partir des textes fondateurs, qui sont le Coran et les paroles du prophète, alors il y a des distinctions très nettes. Vous allez me dire, mais c'est théorique. Oui, mais on commence toujours par le théorique. Puisqu'au départ, il y a la parole de Dieu, puis les paroles du prophète. Ensuite, on les applique ou on ne les applique pas. Il y a des moments où on les applique à 100%. Il y a des moments où on les applique même à 200%, suivez mon regard, avec des interprétations. Et puis, il y a des moments où on les applique à minima. Et donc là, il y a un espace de liberté chez les juristes et chez les théologiens qui vont donner l'impression que dans la société, il est possible de vivre autrement que son voisin, tout en étant musulman. Voilà ce que j'appellerais sécularité. Il y a le domaine de l'obligation. Tout musulman doit faire ce qu'a dit Dieu. Mais il n'est pas le seul, le domaine de l'obligation. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le domaine de l'obligation qui apparaît dans les discours. Il faut faire ceci, il faut faire ceci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il y a le domaine de l'interdit. Avec des implications juridiques, bien sûr. Il y a le domaine du licite. Eh bien, c'est le troisième domaine qui donne l'espace de liberté. Parce que ça va donner à la fois aux juges, aux citoyens, aux courants sociaux, d'inaugurer des comportements qui vont être protégés par des jurisprudences, d'où les écoles juridiques. On a l'école juridique Hanbalite, qui est la plus dure, Malikite, qui vient juste après, celle du Maghreb, Hanafite, qui est plus cool, Shafi'ite. Et c'est pas par hasard qu'elle est plus cool, c'est-à-dire qu'elle est moins contraignante, parce qu'elle joue sur les domaines du licite. Et donc, c'est le domaine du licite qui va créer dans la société une dynamique de sécularisation. Nous n'avons pas le droit de dire que c'est une dynamique de laïcisation. D'abord, il n'y a pas de texte, mais ce n'est que du vécu. Alors, comment on observe la sécularisation dans la société musulmane ? D'abord, elle est devenue nécessaire parce que, historiquement, lorsque l'islam naît et commence à se développer, pendant les premiers siècles, c'est-à-dire du 8e jusqu'au début du 11e siècle, tenez-vous bien, il y a des espaces immenses de l'Empire musulman qui n'étaient pas musulmans encore. Et il y a même des espaces où la majorité de la population, gouvernée au nom de l'islam par les musulmans, n'était pas musulmane. L'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est l'Égypte. Jusqu'à l'époque fatimide au 11e siècle, l'Égypte était gouvernée par une tendance chiite, donc non orthodoxe, mais elle gouvernait une population qui était minoritaire, où les musulmans étaient minoritaires. Au Maghreb, il y a eu toujours des juifs et des chrétiens, et les chrétiens ont existé jusqu'au XIe siècle comme communauté, agissante, intellectuellement, etc. Les juifs aussi, bien sûr. Et puis les juifs sont restés plus longtemps, jusqu'aux indépendances. Il en reste encore quelques-uns, bien sûr, quelques groupes. Et pour le christianisme, il y a eu le rouleau compresseur des mouvements islamisants, surtout du XIIe, XIIIe siècle, avec la victoire de l'orthodoxie. Alors, quels sont les espaces séculiers ? Parce que vous pouvez me dire, vous racontez des choses comme ça qui sont de la spéculation. Non, non, non. Nous observons des espaces séculiers. Les espaces séculiers de la civilisation de l'islam sont l'art, qui n'est pas religieux. La poésie, qui à majorité n'est pas religieuse. La littérature. à majorité non religieuse. Ce sont même des espaces où les artistes se permettent des libertés absolument extraordinaires, protégées par leur qualité d'artiste, protégées aussi par des groupes sociaux qui forment l'élite, qui protègent l'interdit qui plaît, qui protègent l'interdit qui amuse, qui protègent l'interdit qui donne de la vie. Et c'est ça le paradoxe. Vous allez me dire, mais où sont les théologiens, les gardiens du temple ? Ben, ils existent. Mais leurs effets ne sont pas, du 8e siècle jusqu'au 12e siècle, ne sont pas très significatifs. Sauf quelques exceptions. Pourquoi ? Parce que pour 85% des musulmans, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 80%, il n'y a pas de clergé en pays d'islam. Donc il n'y a pas d'autorité qui donne le là pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il y a des tas de gens dans cette amphi. Certains disent que c'est bon, d'autres pas bon, d'autres qui sont entre les deux. Et il y a des discussions, il y a des litiges, et puis il y a des dynamiques silencieuses qui avancent. Les dynamiques, ce sont les dynamiques culturelles, dynamiques scientifiques, puis dynamiques politiques surtout. Alors, l'art, la poésie, la littérature, les sciences, la philosophie. On peut même constater que, objectivement, tant que l'activité scientifique est dynamique, et la philosophie est dynamique, elle fait reculer les espaces de dogmatisme. Dans cette civilisation du Moyen-Âge. Il faut bien ne jamais oublier, pendant que je parle, qu'il s'agit du même Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est la même époque où, en Europe, c'est l'hibernation intellectuelle. Ben oui, parce qu'il faut comparer, sinon on ne comprend pas. Sinon, ce que je vous raconte vous paraît banal. Ce n'est pas banal du tout. Et en plus, ce n'est pas banal du tout parce que, pour la première fois, vous avez une civilisation construite sur une religion qui... Par définition, elle a beaucoup plus d'éléments de contrainte, que ce soit pour le bien ou pour le mal, que des éléments d'ouverture, quelle que soit la religion et la politique. Nous avons des tas d'exemples où les hommes politiques prennent des décisions qui, pour l'intérêt de ce qu'on appelle les équilibres sociaux, pour l'intérêt du pouvoir politique en place, ben des décisions contraires aux grands principes religieux auxquels on croyait à l'époque. Parce que ça change aussi beaucoup. D'accord ? Bien. Alors, le premier moment de l'histoire, la civilisation de l'islam, où la laïcité au sens français du terme, de celle de 1905, va être appliquée dans un espace musulman, c'est la Turquie d'Atatürk, à partir de 1922. Et l'histoire montre, puisque nous vivons l'histoire aujourd'hui, on ne pouvait pas le savoir avant, que en fait, ça va aboutir à un échec relatif. Pourquoi ? Parce qu'on va appliquer en Turquie, je ne suis pas le défenseur de la non-laïcité, vous avez compris, on va appliquer la laïcité, non pas comme voulaient l'appliquer les laïcs français militants du début du XXe siècle, mais au-delà de ça. Au-delà. Et on les comprend à cette époque-là, parce que c'était une révolution, et c'était un refus de quelques siècles de stagnation, et on pensait que la laïcité était un des éléments de modernité, puisqu'ils avaient en face d'eux, sur le miroir, l'Europe qui avançait. Bon, l'Europe, nous le savons aujourd'hui, elle n'était pas toute laïque. Mais la France avait une position privilégiée dans le miroir que regardaient les musulmans, ou du moins les pouvoirs politiques. Donc, la laïcité dans la Turquie d'Atatürk. Qu'est-ce qui va se passer ? Regardez. Il se passe des choses qui ne se sont même pas passées en France. Abolition des confréries. C'est comme si en France, on décide, au nom de la laïcité, de fermer tous les monastères. D'accord ? Calendrier grégorien, week-end chrétien, pour remplacer le calendrier musulman et le week-end musulman, qui était le vendredi. Interdiction d'apprendre l'arabe et le persan, remplacement de l'alphabet arabe par l'alphabet latin. C'est du stakhanovisme, quoi. Et ça a marché. Parce que c'était une réponse à une demande très forte au niveau de la société, en fait, la société turque d'Anatolie. Mais au nom de ce qui restait de l'Empire ottoman. Et il va y avoir des réactions, bien sûr. Ensuite, c'est le silence au niveau des médias. Mais en réalité, mais là j'ai pas le temps, ces choses-là qui vont être appliquées, qui vont être vécues, vont être complétées aussi par d'autres décisions qui n'avaient rien à voir avec la religion, mais avec la langue arabe, comme par exemple l'introduction du système métrique en Turquie, qui va avoir un échec retentissant. Parce que une opinion va se constituer qui va rejeter de plus en plus tout ce qui vient d'Europe. Mais elle n'avait pas les éléments d'expression qu'elle avait avant. On le sait pour le système métrique parce que la réponse, on le voit au quotidien, parce que les commerçants refusaient d'utiliser le système métrique. Ils n'étaient pas obligés de contester dans la rue, mais ils continuaient à compter, à faire leur truc avec ce qu'on appelle la métrologie de l'époque. Le retour de la laïcité, de manière étonnante, apparaît chez les réformistes musulmans algériens pendant la colonisation. À partir de 1945. Jusqu'aux années 40, les mouvements militants au nom de l'islam, qui étaient des réformistes, hein, pas des excités, au sens. Si vous voulez, si on les compare avec maintenant les frères musulmans, etc., c'est une tasse de thé, hein, ce que faisaient les réformistes en Algérie. Mais ils contestaient la colonisation par la nécessité de réformer la société qui n'était pas assez arabe et assez musulmane. Donc ce n'était pas une contestation politique, c'est une contestation culturelle. Sortir de l'emprise de la culture française, du pouvoir politique français, des privilèges de la colonisation. Qu'est-ce qu'ils vont demander? Eh bien, paradoxalement, ils vont revendiquer l'application de la loi de 1905. Pourquoi? Mais parce que ils n'avaient pas les mêmes privilèges que les chrétiens et les juifs avec leurs églises et leurs synagogues. Donc ils voulaient avoir les moyens de vivre, mais au grand jour, et non pas avec les petits subsides qu'avaient les citoyens, et d'ailleurs, dont une partie avait été accaparée par le pouvoir colonial, puisque les plus gros subsides étaient dans ce qu'on appelle le système des biens de main morte, ça s'appelle les habous, le waqf, où les gens, spontanément, en tant que citoyens, participaient au financement de ce qu'on appelle des actes d'intérêt général. Construire une mosquée, construire une école, construire un hôpital, ça se faisait depuis 8 siècles. Bien. Mais ça, tout l'argent, et c'était des milliards, pour, si on les mesure avec l'argent d'aujourd'hui, hein, avec la monnaie d'aujourd'hui, va être accaparé par le premier pouvoir colonial. Ce qui était normal comme tactique politique, puisque ça permettait d'asphyxier toute activité d'opposition, en particulier les activités culturelles et religieuses. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils revendiquaient? Ils revendiquaient d'être comme tous les autres. Alors le paradoxe, c'est que ceux qui sont héritiers aujourd'hui de ces gens-là ne connaissent pas l'histoire. S'ils avaient été très cultivés, ben, ils demanderaient à appliquer la laïcité complètement, là où ils sont. Mais au contraire, ils voient dans la laïcité donc un danger. Alors, quelles sont les perceptions actuelles de la laïcité en pays d'islam? Bon, je fais une conférence à la hache, hein, par manque de temps, bien sûr. Parce qu'en pays d'islam, ce sont des sociétés vivantes, comme toutes les sociétés, à des degrés divers. Et il y a des couches sociales, et il y a des niveaux culturels, et donc tous ne réagissent pas de la même manière. Mais grosso modo, on peut discerner, il y a une tendance majoritaire qui considère que la laïcité, c'est de l'athéisme. Je ne parle pas des intellectuels, hein, donc, mais ils sont minoritaires. Aujourd'hui, dans les pays, même à 1 heure de vol de Marseille, quand on prononce le mot laïcité, c'est synonyme d'athéisme. Comme quand on prononce le mot de franc-maçon, c'est synonyme d'athée. Et d'ailleurs, ça entraîne des polémiques, ça entraîne des coups tordus, etc., etc. Dans le domaine politique, hein, c'est très important. Bien, ça a été intégré comme ça. Certaines élites ne prononcent pas le mot laïcité, mais quand ils veulent parler de laïcité, ils disent la sécularité. Sauf quelques petits partis politiques qui d'ailleurs ont parlé de laïcité et qui en parlent de moins en moins aujourd'hui parce que c'est vraiment mal vu. Alors, quelle est la mosaïque de l'islam en France, aujourd'hui? Bon, alors j'ai mis une mosaïque, hein. parce qu'il y a plusieurs vers. Et je ne sais pas tout. Et on ne nous dit pas tout. Donc je vous ai averti, je ne suis pas spécialiste de tout ça. Mais j'ai perdu du temps à préparer sérieusement cette conférence comme un bon élève, sous l'injonction de M. Fourlier. Il y a plusieurs spécimens. Il y a les musulmans culturels. C'est quoi un musulman culturel? C'est pas facile à... C'est tout ce qui n'est pas ce que je vais définir après. C'est-à-dire, c'est le plus ouvert, le plus libéré, et à qui il reste, soit dans la tête, soit dans la mémoire, soit dans le cœur, une culture musulmane de son enfance. Et qui va être doublée ensuite par une culture arabe, en fait, de la grande anthologie arabe, etc., mais qui, évidemment, ne se dissocie pas facilement de la culture musulmane. Voilà. Donc, en fait, c'est une culture arabe. Bien. Et puis, pour ceux qui ne sont pas pour l'arabité, comme les berbères, etc., ben, c'est une culture musulmane du style de la grande époque de la sécularité du 9e, 10e, 11e siècle. Oui. Parce que beaucoup d'intellectuels aujourd'hui, dans les pays musulmans, considèrent que la grande période de modernité des sociétés musulmanes, ce n'est pas le 20e, le 19e, c'est du 9e au 11e siècle. Modernité au sens de comportement, pas au sens de technologie, pas au sens de découverte, etc., bien sûr. Bien. Alors, les musulmans culturels. Si vous voulez, pour résumer, si je vous dis « je suis un juif culturel », vous comprenez. Un juif culturel. Ça veut dire que je ne suis pas obligé d'aller à la synagogue, je ne pratique pas. Oui, mais qu'est-ce qui le distingue d'un musulman culturel, c'est qu'il a des références culturelles qui ne sont pas les références chrétiennes ou musulmanes, même si ça se chevauche, puisque ce sont les trois religions monothéistes. Ne jamais oublier ça. D'accord ? Bien. Donc, les musulmans culturels. C'est une petite majorité silencieuse. Les croyants non pratiquants. Alors, ce sont ceux qui croient en Dieu, qui ne pratiquent rien, du point de vue du culte officiel, sauf les pratiques qui ont une connotation comportementale, c'est-à-dire ce qui se voit dans la société. Par exemple, faire la prière dans la rue, ça ne se fait pas d'habitude, hein, c'est juste une invention, d'abord parce qu'il n'y a pas assez de mosquées hein, dans les banlieues françaises, et puis ensuite par provocation, enfin des tas de raisons. Il n'y a pas que des raisons mauvaises, hein. On est entre nous, on est entre citoyens. Donc, j'essaie de vous dire un peu ce qui m'est rapporté aussi. Et que vous n'entendez pas. Parce que ça passe pas par les médias, bien sûr. Donc, ce sont des gens, par exemple, qui mangent halal, qui font le ramadan, et qui pratiquent la circoncision pour leurs garçons. Le halal et la circoncision, c'est un comportement essentiellement culturel qui est acquis depuis l'enfance. Comme un réflexe de celui qui ne peut manger que la pomme de terre et les haricots verts et qui ne mange pas les patates cuites, les tomates cuites, etc., etc. J'exagère à peine. Hein. Ce sont des réflexes culturels. Le ramadan, c'est plus un exemple de comportement. Parce que même si quelqu'un ne fait pas le ramadan, il ne le montre jamais dans la rue. Il ne le fait pas chez lui. Donc il applique le principe de laïcité, en fait, puisque c'est l'espace privé. Mais à l'extérieur, il fait tout pour attendre le coucher du soleil pour aller manger avec la famille comme s'il avait fait le ramadan. Et surtout, ne le traitez pas d'hypocrite. C'est un comportement culturel, banalisé, que l'on trouve beaucoup chez les musulmans culturels, quand ils fréquentent les autres. Mais quand ils ne fréquentent pas les autres, ils ne se posent pas ce problème. Donc, il faut distinguer ces pratiques-là des pratiques qui sont la prière, l'aumône, etc. Parce que ça, on peut les faire chez soi, et on n'est redevable que devant Dieu. Bien sûr, pour le musulman, on est toujours redevable que devant Dieu. Mais on est redevable devant l'opinion, pour certaines pratiques qui montrent qu'on est inséré dans la société. Et voici un premier élément de communautarisme. Ce premier élément de communautarisme, il n'est pas méchant dans une période calme. Il devient un élément de repérage pendant les moments de crise. Il est évident que quand je suis arrivé en France en 1965, je suis ici depuis 50 ans, j'ai vu des ouvriers, paysans venant du Maghreb, ne pas faire le ramadan, ne pas faire la prière, etc. etc. Mais ils tenaient, j'ai oublié un élément important, ils tenaient à mourir en musulman. Ils tenaient à ce qu'ils soient enterrés musulmans. Ils tenaient le plus possible à ce qu'ils soient enterrés dans une terre musulmane. Mais évidemment, sur le plan sociologique, ça posait aucun problème. C'est une affaire privée. Ils s'arrangeaient pour se faire payer un cercueil et puis le prix du billet d'avion. Et puis hop, il est enterré dans son village. Voilà. Le retour aux sources. Alors ces croyants non pratiquants, on peut les ajouter à cela parce qu'ils font partie, malgré cette différenciation, dans ce qu'on appelle l'espace séculier des musulmans en France. Parce qu'ils n'ont aucune expression politique à caractère religieux et aucun prosélytisme. Même s'il fait le ramadan, il le fait pour lui, pour sa famille. Voilà. Il y a les croyants pratiquants. Alors ceux-là, ils pratiquent tout. Et en particulier, le vendredi, vous les voyez, effectivement, aller à la prière. Et donc, à un moment donné, ils vont revendiquer des salles de prière. Donc cette revendication n'a rien de politique. C'est juste une revendication d'un groupe social qui veut vivre sa religion selon ses conceptions du moment. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mélanges. Il y a les croyants, pratiquants, militants. Alors ceux-là, on ne peut pas dire que ce sont des groupes sociologiques. Ce sont des groupes d'individus, c'est parfois des individus, mais ce sont des individus dans des groupes qui ne sont pas encore de la même couleur qu'eux. Mais ce sont des individus militants, donc ce sont des opérateurs. Donc ils transforment, ils ont la prétention de transformer le groupe qui les entoure. Dans ce sens, je les appelle militants. Parce qu'ils ont une vérité, et ils considèrent que ceux qui sont autour d'eux n'ont pas la vérité pour le moment, il faut qu'ils aient la vérité. Mais ça reste toujours pacifique. Ça se passe essentiellement dans les mosquées. Et puis il y a les croyants, pratiquants, activistes. Alors ceux-là, ils ont traversé le Rubicon. La dernière remarque sur ça, c'est que il n'est pas très utile de donner uniquement une mosaïque statique. Le grand problème qui se pose aujourd'hui dans une société en crise, et elle est en partie en crise aujourd'hui, nous sommes en crise aujourd'hui pour cet aspect-là, hein, c'est quels sont les liens entre ces logos. C'est logo. Alors, je vous dis que ici, on peut considérer que c'est un peu l'espace séculier. On peut considérer que ces trois-là, c'est ce qui ressemble grosso modo à une mosaïque d'une n'importe quelle société qui historiquement a eu une religion et qui la pratique de moins en moins ou qui la pratique à sa manière. Ça, il n'y a rien de nouveau chez les juifs, chez les chrétiens, etc. Même avec quelques excès du style dogmatique, complètement dogmatique. Bon, à la limite, vous pouvez même mettre le foulard dedans, comme celui qui a la kippa, etc. Tant que ça n'a pas de signification idéologique et religieuse. Ça va avoir des significations lorsqu'on va construire des ponts entre cela et cela. D'accord ? Très peu avec cela. Alors ce sont ces trois-là qui vont poser problème. Donc le grand problème historiquement, c'est que il va y avoir des sas qui vont permettre le passage ici et puis le passage ici. Et quels sont les moteurs du sas? Ici, ce sont les imams très peu formés, mal formés, incultes. Il y en a qui sont très bons hein, en France. Et puis aussi les groupes de propagandistes qui ne sont pas des imams, mais qui travaillent dans la rue, qui travaillent dans des petites mosquées sans prétention. Bon, ce sont les groupes qu'on appellera les salafistes, qui historiquement sont venus d'Orient. Et puis, il y a le lien qui est ici, qui a été négligé pendant 20 ans, et qui a fabriqué ceci. Parce que certains analystes considèrent que le produit de cet hexagone, eh bien, c'est le résultat de tout ce qui a été fait comme travail à l'extérieur des frontières. C'est faux. C'est fait ici. Et évidemment, par l'intermédiaire de deux éléments nouveaux qui sont importants, qui sont la télévision et Internet. Mais ça, je vais les aborder tout à l'heure. Alors, le nombre des musulmans en France, c'est aussi une hantise pour beaucoup de citoyens. Alors, on a même entendu des chiffres absolument incroyables, des statistiques du style écrit, hein, d'ailleurs, et dit dans des journaux, dans des médias, jusqu'à 30% de la population française est musulmane. Bon. Alors, si vous comptez, pour le moment, il n'y a aucun chiffre officiel. D'après des statistiques plus ou moins scientifiques, on balance entre 3 et 4 millions de citoyens vivant en France, je ne dis pas de Français, citoyens vivant en France, et pouvant avoir un lien direct ou indirect avec l'islam, soit l'islam cultuel, soit l'islam culturel, soit l'islam des pratiques, soit l'islam djihadiste, qu'évoquera mon collègue après. Bien. En 2013, 4,1 millions. Ensuite, on a vu des chiffres qui baissaient ça à 3,5 millions, ce qui est insensé parce que dans l'histoire, de 2013 à 2016, ça, normalement, ça devrait augmenter, ne serait-ce que par les naissances, qui sont plus nombreuses que les décès. Donc ça ne tient pas, ça ne tient pas. Mais disons, on est autour de 4 millions. Alors 2,1 millions en 2013 se déclarent croyants et pratiquants. 70 000 à 110 000 sont des convertis. Ça, c'est des statistiques de l'INSEE. De 2010, qui ont été reprises. Vous remarquerez qu'il n'y a aucune statistique et très peu de commentaires et d'études sur la masse qui va atteindre presque 50% ou 60% de gens qui sont des musulmans tranquilles, qui appliquent le vieil adage vivant caché, vivant heureux. Et ça, on n'écrit pas leur histoire, ou très peu, sauf quelques spécialistes. C'est le phénomène du train qui arrive à l'heure. Hein. Ça ne pose pas de problème. Voici les classes d'âge. Donc, 31%, c'est évidemment de 18 à 24 et de 25 à 34. Donc, le grand phénomène important aujourd'hui, ce n'est pas les vieux musulmans. Ce n'est pas les moins vieux musulmans. C'est les musulmans de deuxième, troisième et quatrième génération qui est en train de pousser. Mais quand vous regardez historiquement, deuxième, troisième, même première, deuxième, troisième, quatrième génération, ils sont nés en France. Donc cherchez l'erreur. Où est l'erreur? Bien sûr, il y a des influences. Nous sommes dans la mondialisation. Nous sommes dans l'Internet. Nous sommes dans la télévision numérique. Vous allez voir, il y a des influences, beaucoup. Mais il y a aussi des responsabilité à ne pas occulter. Les origines géographiques des musulmans en France. 65%, Maghreb. Et pourquoi ? C'est l'histoire. L'histoire coloniale française. Afrique sahélienne, l'histoire coloniale française. Donc on va 77%. Orientaux, 12,5%. Ça, on peut considérer que c'est une autre catégorie. D'accord ? Bien. Autres, 10%. Et puis, il y a tous ceux qui sont de passage. Et puis, il y a tous les clandestins, tous les réfugiés, tous ceux qui, tous les matins, arrivent, ma femme est médecin, elle les soigne dans Médecins du Monde, et qui sont là, ils arrivent, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de cacher leur passeport. Parce que s'ils ont le passeport, ils ne peuvent pas être soignés. Parce qu'il y a une loi très généreuse en France, où quand quelqu'un est là et qu'il n'a pas, on ne peut pas statuer s'il est touriste avec un visa, etc., il faut le soigner, c'est un être humain. Il faut le scolariser, c'est un être humain. Mais si on dit, dès qu'on a les papiers, automatiquement, le statut change. Bien. Eh bien, ils finissent par le savoir. Et s'ils ne le savent pas, quand ils débarquent, ils ne le savent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas très bien. Eh bien, il y a les assistantes sociales. Ça veut dire qu'il y a de la chrétienté dans l'air. Il y a de l'humanité dans l'air. Ben voilà, c'est pour ça que le problème aussi est compliqué, très compliqué. Bien, donc je voulais juste dire que s'il y a 77% de Français cette fois-ci d'origine indirecte, puisque ce sont des deuxième génération, troisième génération, qui viennent de l'histoire coloniale française, ça nous oblige, et ça m'oblige aujourd'hui aussi, de faire un petit retour en arrière sur cette histoire. C'est-à-dire sur l'histoire des rapports de la France avec le monde musulman. Et vous allez voir, ça peut vous aider aussi à comprendre certaines choses. Mais je ne tire pas de conclusion, je ne peux pas tirer de conclusion. Alors, quelle est la répartition socio-économique de ces populations? Il y a les militaires et de la main-d'œuvre depuis 1914, qui est arrivée régulièrement, puis les militaires se sont arrêtés, guerre de 40, Deuxième Guerre mondiale, ça s'est arrêté. Et puis, la main-d'œuvre, ben, ça s'est arrêté officiellement parce que les contrats entre la France et les pays riverains se sont arrêtés, mais le flux ne s'est pas arrêté. Et qui est un flux qui n'a rien à voir avec le flux des réfugiés depuis 2 ou 3 ans. C'est autre chose. Il y a les rapatriés. On n'en parle jamais. Ils étaient 45 000 quand même en arrivant. Mais depuis, ils ont fait des petits, mesdames et messieurs. Et puis c'était en 62. Nous sommes en 2017. Donc ce sont des grands-pères et des arrière-grands-pères. Bref. Et donc ceux-là sont arrivés français. Et ils sont toujours français. Mais ils sont toujours restés musulmans. Et parfois, ils sont plus excités que les autres. Excités au bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire plus revendicatifs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que cette revendication qui leur reste, puisque les autres ne marchent pas. Ils ont demandé des logements, ça n'a pas marché. Du boulot, ça n'a pas marché. Des trucs d'intégration véritable dans les villages du Sud, ça n'a pas marché. Alors viennent des gens à l'extérieur et leur disent « Mais vous vous êtes trompés. D'abord, vous avez trahi votre pays. » Voilà la première erreur. Hein. Donc, vous avez trahi l'islam. Alors, psychologiquement, pour effacer la trahison de l'islam, ce n'est même pas la trahison d'un pays ou d'une politique, hein, eh bien, il faut retrouver tout ça. Et donc, on ne le dit pas souvent, mais il y a, parmi les jeunes qui font des bêtises aujourd'hui, une proportion qui vient de cette catégorie. Mais ça ne se voit plus maintenant, ça ne se voit pas, bien sûr. Première et deuxième génération. Troisième et quatrième génération. Et donc, en fait, ma conférence concerne essentiellement ça. Et celle de mon collègue, surtout ça. Parce qu'on peut considérer que ceux-là, les derniers sont tout près de la tombe, hein, bien sûr. Et puis ceux-là, ben, leurs enfants font partie de ces... Et puis il y a les Français de souche. Je vous ai donné quelques plus de 100 000 qui sont des Français de souche, parfois des couples même. Il y a eu un grand incident à un moment donné où c'est un couple qui a été arrêté par la police et le policier a été, dans son expression, désobligeant vis-à-vis de la dame, mais il avait raison parce qu'elle avait le niqab et il demandait quand même à savoir ce qu'il y avait derrière le truc, le masque, là. Et il y a eu une altercation et le mari était là et le mari donc s'est devenu violent. Eh bien, on s'est rendu compte que le mari était franco-français depuis des générations, depuis les croisades. Et la fille aussi, depuis les croisades. Ah, je parlerai des croisades, tenez. C'est un bon rappel. Je vous ennuie pas trop, là?
Non.
Oh, bon. Et puis, il y a les résidents temporaires. Bon, on les appelle résidents temporaires, c'est une expression pudique. Pour dire les touristes officiels, même ceux qui entrent touristes et qui deviennent terroristes, comme il y a 3 jours. Il semble que ce soit comme ça. Et il y a les touristes, les vrais touristes, et ça fait partie des touristes chinois, japonais, etc., etc., surtout ceux du Proche-Orient qui apportent beaucoup d'argent, et des pays du Golfe. Et puis il y a les touristes qui viennent voir la famille, c'est tout à fait légitime, parce qu'il y a beaucoup de, vous avez vu, 72% donc d'origine maghrébine, donc il y a des liens qui se sont développés. Et puis il y a les touristes qui viennent pour un visa de 3 mois, et puis qu'ils se marient. Et donc, parce qu'ils espèrent avoir la nationalité française. Parce qu'ils veulent fuir la misère. Ils veulent fuir, pour certains qui sont plus cultivés, la dictature. Ils veulent fuir l'espace déliquescent de l'espace public, comme dans les pays du Maghreb, où la vie politique est absolument, totalement contrôlée, la vie démocratique, la vie culturelle morte. Bref, ils veulent, comme être humain, vivre mieux. Et ils pensent qu'il y a une place pour eux. Mais à condition qu'ils ne soient pas trop nombreux, quoi. Ils pensent que ce sont eux les premiers. Mais ça arrive tous les jours. Voilà. Alors maintenant, la deuxième phase, je vais essayer de faire le compteur je vous ai apporté tous les grands moments des rencontres, bonnes ou mauvaises, entre la France et les espaces musulmans. Je ne conclurai pas parce que je ne sais pas quelles sont les conséquences. Mais à chaque fois quand on fait l'analyse quand même, il faut se souvenir de ces événements qui sont très importants. Alors il y en a qui sont très positifs, d'autres qui sont très négatifs. Alors si vous avez le temps, et si vous voulez compléter cette conférence qui est tout à fait modeste, il y a un livre qui est passé inaperçu, qui a été écrit par de grands spécialistes, dirigé par le meilleur spécialiste de l'islamologie en France, qui est mort il y a quelques années, je lui rends hommage, Mohamed Harkoun, qui était professeur à la Sorbonne, et puis préfacé par le plus grand médiéviste français, Jacques Le Goff. Bien. Histoire de l'islam et des musulmans en France, vous remarquerez. En France. Du Moyen-Âge à nos jours. Bon, j'ai pris quelques éléments de ce livre et j'ai pris d'autres éléments qui ne sont pas dans ce livre. Alors ce livre, il faut le lire. D'abord, il faut vous l'offrir à vous-même hein, pour le Noël prochain. Et puis, il fait quand même 700 pages. Donc, vous le lisez à dose homéopathique. Il suffit de voir l'index. Si un jour vous voulez savoir qui est Pépin le Bref, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il s'est impliqué avec les musulmans, ben vous trouverez ça. Qu'est-ce qu'a fait Charlemagne? Est-ce qu'il a fait des choses gentilles ou pas gentilles avec les musulmans? Vous trouverez ça. Voilà. Premier mot. Occupation. Alors, je vous le dis tout de suite. Hein. Les premiers qui ont commencé, ce n'est pas les chrétiens, c'est les musulmans. Donc, on peut toujours leur dire, écoutez, hein, vous avez commencé les premiers. N'allez pas vous plaindre maintenant. Premier moment, occupation partielle. Je reste au niveau de la France, hein, d'accord ? Occupation partielle du sud de la France, pendant presque un siècle ici, pas complètement, hein, avec des incursions jusqu'à Autun. On se rapproche là. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas le Bourgogne, hein, pas très développé. Sinon, il serait peut-être resté, non? Et puis l'incursion jusqu'à Poitiers. Mais en fait, ce sont des phénomènes qui, historiquement, ne sont pas très importants au niveau factuel. Ils vont être très importants au niveau idéologique, ce qu'on appelle la réécriture de l'histoire officielle. Et puis de la construction de la mémoire collective, surtout pour Poitiers. Par contre, là, effectivement, il y a eu des petits états musulmans, avec des séquelles, même au niveau de la toponymie, au niveau des noms des gens, etc. etc. Moi, M. Edgar Morin, qui a parlé ce matin sur France Info, le grand intellectuel, donc c'est un ami, je dois en discuter avec, ensemble, etc. Il a 95 ans, il a toujours une intelligence d'une vivacité extraordinaire. Alors lui un jour, il n'avait pas tellement picolé ce jour-là, mais il m'a dit que Morin, ça vient des morts, ça vient des musulmans, c'est une des séquelles. Alors c'est d'autant plus comique que lui est d'origine juive, il a changé de nom, il s'appelle Morin. Donc vous voyez un peu la complexité déjà. Oui, mais lui, il est le spécialiste de la complexité. Alors, donc ici, contact violent, puis modus vivendi, avec des alliances plus ou moins pas très catholiques, si j'ose dire. Des pouvoirs catholiques qui s'allient aux musulmans parce qu'ils avaient intérêt à s'allier contre les pouvoirs catholiques qui les embêtaient parce qu'ils voulaient grignoter leur territoire. Ce n'était pas le royaume. C'était encore des comtés, des duchés, etc., etc. Donc, dans la logique médiévale, ce n'était pas de la trahison que de s'allier avec des musulmans. Parce qu'on préservait ben, son comté. Voilà. Et on devenait un allié de l'ennemi. Deuxième moment. Carolingien et abbasside. Ben, figurez-vous, il y a eu deux moments où le grand pouvoir carolingien a eu des relations diplomatiques très importantes qui auraient pu changer la face du monde méditerranéen. Et il y a Pépin le Bref, c'est pour ça que je l'ai évoqué. Pépin le Bref est contemporain d'Al-Mansour. Al-Mansour, c'est le deuxième calife abbasside et c'est le plus grand. C'est celui qui va fonder la dynastie abbasside, qui va venir après leurs cousins, qui sont les frères ennemis, qui sont les Omeyyades. Et d'ailleurs, pour prendre le pouvoir, ils vont égorger tous les Omeyyades, sauf un. C'est pas la blague. Sauf un. Et celui-là, ben, pour fuir le massacre et pour, tant qu'à faire, construire un nouveau pouvoir, Eh bien, il va faire comme font les gens aujourd'hui. Il devient réfugié. Il devient immigré. Et d'ailleurs, le nom qui lui est resté dans l'histoire, c'est Abderrahman, c'est son prénom, Abderrahman Ier. Mais en fait, on l'appelle Abderrahman l'immigré. Parce qu'il est venu en Espagne. Sa terre natale, c'est la Syrie. La grande Syrie de l'époque. Et donc, Al-Mansour va envoyer une délégation à Pépin le Bref pour signer un accord stratégique. Et l'histoire dit que Pépin le Bref n'a pas répondu, ou alors a trop traîné, en plus vu les distances, donc ça n'a pas marché. Par contre, avec Charlemagne, ça a commencé à marcher. Haroun al-Rachid, alors Al-Mansour, c'est le deuxième calife. Son fils, c'est le Mahdi. Ensuite, son petit-fils, c'est Haroun al-Rachid. Vous voyez, c'est les Abbasides. Haroun al-Rachid, c'est un personnage des mille et une nuits, il est très connu, etc. C'est un grand. Et il est aussi important dans ce qu'on appelle l'histoire légendaire de la civilisation de l'islam que Charlemagne, dans l'histoire légendaire de la France, en plus de l'histoire réelle. D'accord ? Et donc, ce sont les historiens de France, donc des pays francs à l'époque, qui racontent, parce que les musulmans ne le racontent pas, c'est trop loin d'eux, puis c'est une grande puissance, et puis le pays des Francs, c'est un petit pays, donc il n'y a pas d'historiographie. Ce sont les latins qui nous disent ça. Eh bien, tout le monde sait, dans la littérature de l'époque, que Charlemagne a reçu comme cadeau, parmi tous les cadeaux qui sont dessinés ici par quelqu'un, je ne sais pas, un anonyme, il y a eu un éléphant. Il lui a envoyé un éléphant qui a traversé toute la côte méditerranéenne et qui a survécu à Charlemagne. Il a vécu 10 ans. Ah. Pourquoi les pouvoirs musulmans veulent signer des accords stratégiques avec les pouvoirs chrétiens ? D'abord, ça vous montre que en politique, il n'y a pas de clivage chrétien-musulman. Il y a des clivages à un moment donné, puisque les musulmans vont combattre les chrétiens d'Orient, qui sont les Byzantins, pour contrôler leur territoire. Mais tous les chrétiens qui sont dans le territoire musulman et qui sont des ennemis des orthodoxes, qui sont les jacobites, les nestoriens, les monophysites, les coptes, tout cela ont accepté la protection, bien payée, hein, parce qu'ils payent des impôts, des musulmans, et on va les appeler les protégés. Et donc, s'il y a conflit, ce sont des conflits militaires ou politiques. Et bien là, s'il y a accord, ce sont des accords politiques et militaires. Et contre qui ? Devinez. Ben, contre le cousin Omeyyade, qui est à Cordoue, qui a échappé à l'assassinat, et qui va devenir le roi de l'Espagne, Abderrahman Ier. Et vous imaginez, à des milliers de kilomètres, on essaye de signer un accord international pour éliminer la dissidence qui est en Occident musulman. Donc c'est de la réelle politique. Bien, la réelle politique va nous poursuivre jusqu'à aujourd'hui, puisque parfois c'est la réelle politique des États qui empêche la résolution de certains problèmes de nos sociétés. Parce qu'il y a des choses contradictoires. Troisième moment, reconquête chrétienne en Occident. Là, je ne vais pas traîner parce que j'ai déjà fait une conférence, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, sur les conférences vues par les musulmans. Ça va durer 2 siècles. 1063, en fait 1099, 1270. Mais là, ce sont tous les conflits qui vont avoir lieu entre l'espace chrétien européen et l'espace musulman. Alors, il y a la croisade des Bourguignons. Tiens, c'est la première. Alors, chaque fois qu'il y a le mot croisade, c'est pas moi qui l'ai ajouté pour des raisons idéologiques que je préfère, pas du tout, parce qu'elles sont estampillées croisades, ça veut dire qu'elles ont eu la bénédiction du pape. Ça veut dire qu'elles ont une dimension autre que militaire ou politique. Il y a une dimension idéologique. Et là, évidemment, c'est en Espagne. Alors, dans l'histoire officielle des croisades, elle n'est pas signalée. Il n'y a que les 8 croisades. Ce sont des petites croisades. Mais pour l'historien musulman, lui, il n'y a pas le mot croisade. Il y a le mot attaque des chrétiens contre le territoire qu'Allah a donné aux musulmans. Et qu'il a donné aux musulmans définitivement. Bon, sauf apparemment, il a changé d'avis, puisqu'après, ils vont recevoir des raclées monumentales. Vous allez voir, ça va dégringoler. Mais il y a une conviction. Il y a une mentalité. Qui est qu'on est surpris qu'on vienne récupérer les territoires que Dieu nous a donnés. Et très surpris. Bien. Donc, pour les historiens musulmans, ben, c'est une attaque. Reconquête de la Sicile. Parce que toutes les îles méditerranéennes étaient musulmanes. Reconquête de Tolède, attaque de Mahdiya par les Génois et les Pisans. Mahdiya, ce n'est plus l'Espagne, hein, c'est le Maghreb. Donc vous voyez déjà. Donc les musulmans ont commencé à sentir que ils sont un peu cernés. Croisade des chevaliers francs en Espagne prêchée par le pape Urbain II. Alors là, nous sommes à la veille de la première grande croisade d'Orient. Voici Urbain II. Reconquête de la Corse. Reconquête de Saragosse. Reconquête de Cordoue. Et enfin, reconquête de Grenade. Ça, c'est les grandes aventures des reconquêtes de l'Occident musulman. Mais tous ces éléments-là sont enseignés dans l'histoire, dans les programmes d'histoire aujourd'hui, dans les pays musulmans. Quand on parle, nous, aujourd'hui, ici, des pays musulmans, on ne sait pas ce qu'ils inculquent à leurs enfants. Eux aussi ne savent pas ce qu'on inculque à nos enfants dans les écoles publiques et privées. D'où, justement, le grand fossé. Et chacun veut, même quand il y a une coopération entre les pays pour résoudre un problème, comme le problème, par exemple, du terrorisme et du djihadisme, eh bien, il y a parfois des incompréhensions. Alors, si ça se trouve, de temps en temps, j'oublie ma casquette de conférencier, et puis je me souviendrai que j'ai eu des responsabilités politiques dans mon pays, et que j'étais pendant la décennie noire, et où j'ai accepté d'être conseiller d'un président pour combattre l'avènement, pour empêcher l'avènement d'une théocratie dans mon pays, et pour défendre la République. Même si la République était défendue par une partie de la société civile, et puis par l'armée qui était républicaine, même si une partie de l'armée qui était républicaine, ben, c'était des officiers bedonnants, qui étaient traficotés, etc. Mais l'urgence était qu'ils étaient pour la République. Donc ça, si je dois en parler, ce n'est pas uniquement pour parler de moi. Hein, c'est parce que j'ai une expérience. Alors, quatrième moment, les croisades d'Orient. Tout ce qui est en violet, pour toutes les croisades, sauf deux, montre la participation importante de responsables du pays franc. Et il n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'impact culturel à l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Première croisade, Pierre l'Ermite, Raymond de Toulouse, Godefroy de Bouillon, j'ai pas mis quelques Belges. Raymond de Flandre, etc. Bien, mais on peut considérer que c'est à peu près la France, quoi. Mais c'est pas tout à fait la France. Deuxième croisade, Bernard de Clairvaux, Louis VII. Troisième croisade, Philippe Auguste, rien que ça. Je mets pas les étrangers, les Anglais, les Allemands, etc., puisque nous restons dans l'Hexagone. Hein. Quatrième croisade, Boniface de Montferrat, Foulque de Neuilly. Ces deux croisades n'implique pas des Français. Des Francs. Septième croisade Saint-Louis. Huitième croisade Saint-Louis. Vous remarquez le pourcentage de la participation. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que dans l'historiographie arabo-musulmane, et même dans les universités aujourd'hui, quand on parle des croisades, pour qualifier les acteurs européens, chrétiens qui sont venus vers l'Orient et vers le Maghreb. On ne les appelle pas croisés parce que le mot n'existe pas en arabe. On les appelle du nom du pays qui a donné le plus de dirigeants dans les croisades. On les appelle les Francs. On les appelle les Ifranges. Quand vous voyez Ifranges, ça veut dire les croisés. C'est-à-dire les croisés d'Occident et d'Orient, les Ifranges. Or, Ifranges, c'est le pays franc. Cinquième moment. Alors là, comme vous m'avez écouté depuis des années, c'est le grand moment où, pendant les affrontements militaires et idéologiques, il y a des groupes sociaux en Europe, qui vont outrepasser ces frontières idéologiques, culturelles, militaires, et qui vont être les initiateurs de contacts et d'échanges sur le plan strictement intellectuel, scientifique, philosophique, mais pas culturel au sens large, pas religieux, sauf quelques exceptions. Gerbert d'Aurillac, le pape de l'an 1000, il va apprendre l'astronomie près de Barcelone. Pierre le Vénérable, c'est le premier qui a compris que si on veut battre l'ennemi de l'époque, il faut quand même connaître sa stratégie, connaître son idéologie. Or, on allait combattre les musulmans et libérer le tombeau du Christ sans savoir absolument rien de tous ces gens-là qui gouvernaient quand même toute la Méditerranée pendant des siècles. Donc, il a financé la traduction du Coran en latin. Pierre Abélard, c'est un autre visage très important, mais plutôt des relations pacifiques dans le domaine du savoir, philosophie et sciences. C'est un personnage qui est plus emblématique, symbolique, parce que grâce à ce qu'il a appris en philosophie et en sciences, il a participé à valoriser l'apport de la civilisation de l'islam en sciences et en philosophie. Et ça va rester jusqu'au XVIe siècle. Ce n'est qu'au XVIIe que le visage, le regard qu'on a sur les musulmans va changer. Mais sinon, jusqu'à la fin du XVIe siècle, il y a une image positive du musulman ou du citoyen de cet espace musulman parce qu'il a apporté quelque chose. Parallèlement au moment où il y avait quand même les croisades. Hein. Alors, Pierre Abélard, on raconte toujours que, enfin c'est attesté, que son amour pour la science qui est venue, science grecque, indienne et arabe, qui est venu cet espace ennemi, entre guillemets, l'a amené, après ses amours tumultueuses avec sa femme, ils ont eu un garçon, vous le savez, ben, ils l'ont appelé Astrolabe. Or, l'Astrolabe, c'est l'instrument mythique de l'astronomie gréco-arabe. Voilà. Et puis, il y a évidemment les contre-courants. Donc, au même moment, nous sommes au XIIIe siècle, l'évêque de Paris, il a été évêque de 3 ou 4 ans, Templier, il va publier ce qu'on appelle des syllabus, c'est-à-dire des proclamations contre la philosophie gréco-arabe, essentiellement, pour dire que tout ce qui vient de ces gens-là, c'est mauvais, il faut l'éliminer, etc., etc. Mais il ne peut pas empêcher le développement de ce courant, parce que c'était porté par l'intelligentsia des sociétés européennes. Sixième moment, les alliances stratégiques. De nouvelles alliances stratégiques qui pourraient expliquer aussi pourquoi, à un moment donné, c'est arrivé jusqu'à nous, eh bien, apparaît dans la littérature française, apparaissent des personnages de l'Orient musulman, qui ne sont plus des personnages maléfiques, mais qui sont des personnages, disons, valorisés. Eh bien, c'est l'époque de François Ier et de Soliman le Magnifique. Alors nous savons qu'il y a eu une alliance stratégique entre ces deux pays. Contre qui? Eh bien, contre l'Espagne. Le septième moment, la première immigration vers la France. Les Morisques. Alors les Morisques, ce sont ceux qui restaient des musulmans de l'Espagne, qui, après la chute de Grenade en 1492, ont été obligés par le pouvoir catholique de la Castille, c'était pas encore l'Espagne, de se christianiser. Donc, ils se sont christianisés, mais, nous le savons aujourd'hui, le jour, ils étaient chrétiens, et le soir, ils étaient musulmans. Donc, c'était des crypto-chrétiens. Comme quand même le pouvoir espagnol, castillan, pardon, avait ses informateurs, et puis ça représentait quand même de temps en temps des lobbies dangereux pour la politique de la Castille. Donc ils ont décidé un jour de se débarrasser de tous ceux qui leur rappelaient la période musulmane. Alors il y avait les derniers musulmans et puis les derniers juifs. À cette période donc, début du XVIIe siècle, on va chasser tous les juifs et tous les musulmans, les pseudo-musulmans, puisque bon, et on les chasse, mais où vont-ils aller? En 1609, 150 000 arrivent en Provence et 40 000 en Navarre. Et le pouvoir de l'époque ne prend pas de décision contre. En 1610, 50 000 arrivent au Languedoc. Le pouvoir ne bouge pas. En 1610, enfin, Henri IV prend une ordonnance. Il officialise l'arrivée de ces immigrés. Suivez mon regard. Et il dit qu'ils soient usés en leur endroit d'humanité pour les recueillir en ces pays et États. C'est une très jolie phrase. Voilà. Bon, elle est authentique. Hein, donc, Cela dit, Henri IV, c'est pas n'importe qui, parce que Henri IV, indépendamment de sa valeur et indépendamment de la poule au pot, il a connu les guerres interreligieuses en France. Et donc, ils ont une expérience fâcheuse. 30 000 seulement décident d'aller au Maghreb. Et les autres restent. Que sont-ils devenus, comme dit la chanson? Et ça, c'est un élément de réflexion pour aujourd'hui. Ils ont disparu dans la nature. Il n'y a aucune trace, si ce n'est quelques éléments généalogiques, si on les cherche beaucoup, ils sont devenus français. Donc, avec un peu de patience, dans deux siècles, après qu'il y ait un Henri IV, je plaisante quand même, parce que le problème est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Huitième moment, alors c'est là où ça devient, effectivement, ça nous concerne directement. Avant, c'était anecdotique, si vous voulez. Alors là commence la colonisation et les conséquences de la colonisation. Sans porter de jugement sur la colonisation et le protectorat. Quelles sont les conséquences? Alors, 1798-1801, tentative avortée de Napoléon en Égypte. Ça, j'ai fait une conférence déjà. Bien. Il y a eu des séquelles, je les ai racontées. 1830-1962, colonisation de l'Algérie. 81-56, protectorat en Tunisie. Ce n'est pas le même système. Comme ce n'est pas le même système, la conséquence sur l'émigration ne sera pas la même. Parce que le plus gros contingent d'émigrés pour l'industrie française sera d'abord algérien. 1883-1900, colonisation d'Afrique noire. 1912-1956, protectorat au Maroc. Et 1920-1946, protectorat en Syrie. On parle très peu du protectorat en Syrie et de ce qui s'est passé après. C'est dans le cadre, si vous voulez, de la grande du dépeçage de l'Empire ottoman et donc d'une reconfiguration des pouvoirs du Proche-Orient. La Première Guerre mondiale va avoir une conséquence sur le plan sociologique qui sera visible. Recrutement de contingents venant des colonies pour la guerre, près de 100 000 morts ou blessés de la première guerre originaire des colonies. Comme la mémoire circule quand même, même si elle est orale, ça finit par tomber dans les oreilles des gens de la énième génération, et c'est un des arguments qu'on ressort chez certains groupes pour dire « nous avons des droits ». Ils ne parlent pas des droits en tant que nés en France, mais des droits, d'autres droits. Création de cimetières musulmans en France. Ça, c'est l'une des premières revendications. Et elle n'est pas faite par les anciens soldats. Elle va être faite... il va y avoir des créations de cimetières musulmans. Lorsqu'il s'agit des militaires, c'est les militaires qui décident. Donc les premiers, ce sont les cimetières décidés par les militaires. Ça, on ne demande pas l'opinion, c'est discret, etc., etc. Bien, il y en a. Mais c'est surtout les cimetières de civils qui vont poser problème. Et ce ne sont pas les immigrés classiques qui vont les demander, ce sont les rapatriés d'Algérie. Août 14, recrutement d'une main-d'œuvre des colonies pour remplacer les recrues françaises parties au front. Ils vont venir sans leurs femmes, sans leurs enfants. Accueil d'étudiants venant des colonies. En 1926, pour la première fois, présence symbolique d'un islam au niveau de l'architecture. À Paris, la mosquée de Paris, inaugurée par le pouvoir français, c'est l'époque où on va maintenant décider qui va gérer cette mosquée. Alors il faut attendre 1957 pour que Guy Mollet nomme Hamza Boubaker, qui est un personnage très connu pendant la colonisation française, qui travaillait dans l'administration française, de grande famille d'Algérie. Alors le fait que ça a commencé par l'Algérie, parce que la mosquée de Paris va devenir le lieu le plus important officiellement de l'islam de France, mais l'islam officiel, bien, qui va être mis en cause par précisément les islams qui sont contestataires. Mais pour le moment, le pouvoir tient encore à cet islam officiel, qui, on peut le dire maintenant, c'est pratiquement une coquille vide. Hein. Il y a toujours des gens qui vont à la prière. Mais ils sont, de fait, lorsqu'on discute avec les gens, marginalisés par rapport à la dynamique que vous connaissez aujourd'hui avec toutes les conséquences tragiques. Alors, c'est en 1992, c'est son fils qui va prendre le... Alors ça, c'est quelque chose de très fâcheux, parce que très vite, les gens vont considérer que ça va être comme les rois, quoi. Bon, il y a eu une rupture avant, hein, parce qu'il y a eu, ensuite, il y a eu un autre personnage. Il y en a eu un avant, Hamza Boubaker, c'est Ben Rabrit. Il y en a un autre, c'est le Cheikh Abbas. Et ensuite, Dalil Boubaker, qui est toujours vivant. Ah, bon. La décennie 60, je vais aller vite maintenant, implantation des 42 500 rapatriés d'Algérie, l'islam devient un recours identitaire. Et l'islam devient une revendication culturelle. Ils vont demander des lieux de prière, ce sont eux les premiers, des imams, des carrés musulmans dans les cimetières. Ils ne vont pas être entendus. Première erreur. Je dis une erreur sur le plan de ce qu'on sait aujourd'hui, comme conséquence. Parce que les jeunes, les parents, eux, sont vieux, ils ne vont pas en vouloir à l'État, ils se disent, bon, déjà, on est sauvés, ils nous ont sauvés, on n'a pas été massacrés, etc., etc. Mais ce sont les jeunes qui vont avoir dans leur mémoire ces revendications non abouties. Accueil de nouveaux migrants maghrébins, célibataires souvent illettrés. Ça va se faire avec des accords internationaux entre le gouvernement français et les gouvernements maghrébins, algériens, tunisiens, marocains. Les Turcs vont venir après. Les Turcs iront essentiellement en Allemagne. Contrat de travail à durée déterminée, signé entre les États. Évidemment, il y aura du déchet, entre guillemets. C'est-à-dire que quand quelqu'un finit son contrat, bien il reste en France, si ça lui plaît de rester en France, si les conditions sont bonnes. Les autres reviennent, ils ont un pécule, ils achètent une terre, ils construisent une maison, puis ils reviennent en Algérie jusqu'au moment où bon, ils se sont obligés de revenir. À l'époque, c'était la circulation fluide, il n'y avait pas de carte de résidence contraignante. Hein. Pour l'Algérie, du moins. Aucune revendication religieuse. À la fois dans les écrits que j'ai lus, et même dans le vécu, puisque moi, je suis arrivé en 1965. Et j'étais jeune étudiant, je faisais mon doctorat, et je faisais de l'activité sociale. Je faisais de l'alphabétisation. Je faisais pas de politique parce qu'on m'a jamais appris à faire de la politique. À 24 ans, je savais pas comment on disait le mot grève en arabe, la grève. En français, je savais, mais en arabe, non. Pour vous dire. Et j'ai appris à faire de la politique eh ben, au quartier latin. Ben, c'est comme ça. Bien avant, en 68. Hein. Bon. En 68, j'ai rien fait, parce qu'avec mon passeport algérien... Si, je me souviens, j'ai pris un pavé, quand même. Je suis filmé, mais il y a prescription. J'avais mes étudiants, c'était ma première année d'assistant. J'ai mes étudiants, tous français, qui étaient très excités, etc., etc. Puis je les accompagne, parce qu'à l'époque, c'était très populaire, et puis on se tutoyait. Et puis c'était vers 4h du matin, donc les étudiants étaient complètement continués encore avec leur vigueur de jeunes. Et puis j'étais un peu plus vieux qu'eux. Et puis un de mes étudiants, une étudiante charmante, m'a apostrophé. « Et alors, mais toi alors, tu fais rien ? Ça te concerne cette révolution ?» Ça me concerne. Moi j'avais fait, on m'avait dit qu'il y avait déjà une révolution en Algérie et qui a coûté très cher, ça nous suffit. Alors j'ai quand même pris symboliquement un pavé, mais heureusement le brouillard m'a protégé et les lacrymogènes, j'ai pas été attrapé. Ah, par contre, commence l'encadrement politique et syndical de ces communautés, non pas par les Français, mais par les pouvoirs qui les ont envoyés. Et ça a endormi le pouvoir français. Parce qu'on a réglé un problème. Les ouailles étaient contrôlées et surveillées par leurs États, par leurs espions, par leurs agents et par leurs officines, style association culturelle. Vous connaissez un peu ça. On va manger le couscous le vendredi, mais ensuite c'est juste pour savoir qui sont les agitateurs, qui sont ceci, cela, etc. Voilà, qui sont les opposants. Alors je connais bien cette période parce que j'ai été opposant, j'ai commencé à m'opposer. À partir de 1970, donc j'ai intégré un parti politique. Et je faisais de l'alphabétisation, etc. Et donc j'ai suivi ça, et puis j'ai suivi aussi les premières actions des syndicats français et du patronat français en direction de ces populations. C'est surtout dans les décennies 70. Crise économique mondiale, arrêt officiel de l'immigration, pérennisation du séjour des immigrés, et c'est là où commence la politique de regroupement familial. Les États maghrébins ne l'ont pas demandé. Ils n'avaient pas intérêt aussi. Ils avaient intérêt, les États maghrébins, par égoïsme et par nécessité d'État, à ce qu'un célibataire aille en France, qu'il gagne de l'argent, qu'il envoie de l'argent à sa famille, et c'est la seule garantie qu'il continuera à envoyer de l'argent. Et donc c'est une épargne forcée, et puis presque naturelle, quoi. Là, avec ça, en fait, il y a peut-être eu des arrière-pensées, c'est que l'argent, de cette masse d'argent, va rester en France. En fait, elle ne va pas rester en France. Coupure culturelle entre les enfants scolarisés et les parents ne parlant pas le français. La première coupure est là. C'est une coupure culturelle, linguistique, et surtout, à ce moment-là, comme réponse à la coupure, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a l'école, bien sûr, mais il n'y a pas autre chose, quelque chose de remplacement qui soit lié à leur identité, entre guillemets, à l'identité de leurs parents. Et c'est là où va s'engouffrer le premier discours islamiste, qui est au début très light, hein, très très light. C'est un discours moralisateur, un discours de retour aux sources de la religion. Arrivée de migrants turcs en provenance d'Allemagne, revendication de nature religieuse, culturelle, c'est pas par hasard, ça commence là. Et 1975, un tournant. Alors là, pour la première fois, avec l'accord du ministère de l'Intérieur, un phénomène nouveau va apparaître. On va tenter d'organiser l'islam de France. Alors qu'avant, personne ne s'occupait de ses citoyens. Création de l'enseignement des langues et cultures d'origine. Initiative étatique. Tunisie, Maroc, Algérie et France. Ça va durer jusqu'en 1993, 92. 92, je suis nommé ministre. Je demande, puisque je vivais en France, je connaissais la situation. Je savais que commençaient à pénétrer dans cette structure des islamistes qui, au travers de l'enseignement de l'arabe, enseignaient des idéologies très rétrogrades. Ils n'étaient pas choisis par l'État. Ils étaient choisis par... Le choix se faisait dans les départements, dans les wilayas. Donc c'était le principe de « mon frère, mon cousin ». Et aucun contrôle. Et comme dans le pays profond, l'islamisme avait commencé dans les années 70, tout est réglé. Hein, avec le... Et donc, nous arrivaient des enseignants, on envoyait une centaine par an, avec obligation de revenir en Algérie après 3 ans. Donc, il y a un renouvellement. Et du coup, le renouvellement ne se faisait pas très bien parce que les gens étaient payés en devises. En plus, ils avaient un pays démocratique. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ont brigadé les enfants. Et donc, ils n'avaient pas envie de rentrer. Alors, souvent, ils prétextaient des maladies graves. Et on était obligé de les remplacer par d'autres. Mais alors ça devient infernal parce que les pires sont restés en France. Et on les remplace par des gens qui sont pires parce que les choses vont évoluer après, de manière dogmatique, du point de vue de l'islamisme politique. Et alors moi je suis arrivé et puis j'ai demandé à voir mon homologue ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Bayrou. Il me reçoit gentiment et je lui parle du dossier. Et il ne comprend pas ce que je lui dis. Je parlais français, hein. Il ne voulait pas comprendre, ou alors il avait d'autres préoccupations. Et puis ses conseillers l'avaient orienté sur autre chose. Ses conseillers l'avaient orienté sur le fait que le pouvoir algérien, je suppose, hein, le pouvoir algérien actuel, 92-93, il est illégitime, résultat d'un coup d'État. Donc les ministres viennent juste nous embobiner, alors que moi je lui disais, je suis prêt à signer un nouvel accord, où on va mettre tout à plat, et puis on va même faire un concours. Et vous allez participer au concours. Ce qui était énorme. J'ai eu le feu vert. J'ai eu le feu vert de responsable de ce qu'on appelle les relations internationales, mais du côté militaire. Et donc j'étais appuyé. Je dis, vous, pour la première fois, alors l'Algérie indépendante, etc., la guerre de libération, et on propose, avant les Tunisiens, avant les Marocains et les Turcs, on propose une négociation où on met tout à plat et où on participe tous les deux, les deux pays, à choisir les profils d'enseignants. Et j'ai exigé qu'ils soient francophones et arabophones, et on fera tout pour qu'ils ne soient pas islamistes, au sens militant du terme. Bayrou n'a pas compris. Donc il n'y a pas eu de suite. Une seule suite, je l'ai à la maison. J'ai une photo avec Bayrou. Pour authentifier mon discours. Par contre, Fillon m'a écouté. Ça n'a rien à voir, hein. Parce qu'il venait d'avoir le premier poste politique de sa vie, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Et moi, j'étais ministre aussi de l'enseignement supérieur. J'avais trois casquettes. Normalement, sur le plan de la hiérarchie, j'étais plus important que Fillon, que Bayrou. Et lui, il m'a écouté. Il a très vite compris. Il m'a dit, je lui ai dit, monsieur le ministre, la seule coopération qui fonctionne aujourd'hui entre deux pays ennemis à cause de la guerre d'indépendance, c'est l'enseignement supérieur. S'il vous plaît, aidez-nous à faire quelque chose pour que cette chose-là continue. Alors il me dit, écoutez, voilà, j'ai une idée. Est-ce que je peux faire une visite officielle en Algérie ? C'était un scoop pour moi, parce qu'aucun ministre, dans la décennie 90, aucun ministre de pays européens ne daignait venir en Algérie faire une visite pour au moins symboliquement dire « nous soutenons le principe de la République dans ce pays ». Contre le régime théocratique. Aucun, mesdames et messieurs. Il n'y en a qu'un qui est venu. Et il n'était plus ministre. Il avait démissionné avec fracas parce qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se passait quelque part en Irak. C'est Chevènement. Et il est venu. Et je l'ai reçu. Parce qu'on m'a choisi pour le recevoir. Parce qu'on m'a dit, le ministre de la Défense ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le connaît pas bien, il ne connaît pas sa culture, puis c'est un militaire, et puis il est très occupé. Protocolairement, il faut que ce soit le ministre de la Défense, parce que c'est son dernier poste. Alors ils ont cherché, puis le chef du gouvernement lui a dit « mais ça y est, on l'a trouvé ». Chevènement, il a été ministre d'Éducation dans sa vie. Il a été ministre de beaucoup de choses. Ah ben, il y a Djebbar qui peut le recevoir. De toute façon, Djebbar, c'est le meilleur choix, parce que Djebbar, il parle français. Il connaît la culture française, il a vécu en France, et il connaît beaucoup de choses que l'on ne connaît pas, parce qu'il a vécu pendant 30 ans en France. Et c'est comme ça que je l'ai reçu. C'était une visite privée, mais on a fait tout protocolairement pour que ça apparaisse à ses yeux comme une visite officielle. C'était un remerciement de l'État algérien à Chevènement. Alors je ferme la parenthèse de mes pérégrinations politiques. Création de l'enseignement des langues et cultures d'origine ELCO, je vous apprends que ce n'est que cette année, 20 ans après ma tentative, sans prétention, que enfin le dossier vient de s'ouvrir, je l'ai appris dernièrement, ils vont renégocier parce qu'ils ont enfin compris que c'était un nid de l'idéologie, etc., etc. Vecteur des nationalismes maghrébins, au départ. Vecteur d'un islam culturel, identitaire et militant, non prévu par les États signataires. Création du bureau de l'organisation de la Ligue islamique mondiale. Ah là, c'est beaucoup plus sérieux. Financé par les fonds provenant de l'organisation de la Ligue islamique mondiale, OLIM, le bureau OLIM, financé par l'Arabie saoudite. Le premier organisme en France pour gérer les musulmans, même s'ils n'ont rien demandé, les musulmans, rien. C'est un organisme financé par l'Arabie saoudite, dans le cadre d'une stratégie internationale, tolérée par les autorités françaises, pour des raisons d'intérêt d'État. Décembre 80, modification du paysage islamique. Entrée en jeu de l'islam iranien, 1979, Khomeini. Financement par des États musulmans de mouvements religieux visant à réislamiser les sociétés. Mais ça reste des mouvements pacifiques. Nouvelle demande. Évidemment, les gens sont travaillés maintenant. Donc ils demandent des lieux de prière. Le ramadan devient de plus en plus comportemental. Ils demandent, donc ils s'occupent des prescriptions alimentaires. Ils demandent des imams pour la conduite des prières. Avant, moi j'étais témoin. Quand j'étais étudiant, j'allais dans les, vous savez, les foyers de Sonacotra, où il y avait les ouvriers. Et Sonacotra avait, avec les revendications des ouvriers, de Renault et de Peugeot, il leur donnait une salle. Et puis, ils avaient choisi parmi les ouvriers, parmi ceux qui connaissaient un peu quelques versets du Coran, ben, ils faisaient la prière, et puis ils le changeaient de temps en temps. Si un venait d'Algérie ou de Maroc qui était plus savant que le premier, ben, il devenait imam. Mais il n'y avait aucune revendication. La revendication, c'était la salle. Et ils ont obtenu la salle. Bien. Là, c'est une revendication à l'État. Et une revendication de l'aumônerie. L'aumônerie dans les prisons. Puis ensuite dans l'armée. Soutien de patrons de grands groupes industriels à ces demandes. Ben oui, pour la stabilité. Demande d'un islam collectif et public. Donc ce n'est plus un islam des couloirs et des caves. C'est un islam qui veut être en plein jour. Au lieu d'un islam privé très confidentiel. Et il y a le soutien syndical. Alors il y a les archives. Hein. La CGT a soutenu ces demandes. Je ne dis pas que les jeux de mode n'étaient pas légitimes. Je vous fais de l'histoire. J'ai juste, au cas où quelqu'un vient nier ces faits, vous dites, non, on les trouvera dans les archives. Déficit d'imam. Et voilà comment commence la chose. Il n'y a pas d'imam. Il n'y a pas beaucoup de gens qui apprennent le Coran par cœur, c'est difficile. Moi, j'ai appris le Coran partiellement. Auprès de mon père, j'étais privilégié parce que mon père était l'équivalent d'un imam, d'un curé. Et donc, il connaissait le Coran par cœur, il avait une école coranique, et puis il recevait les enfants, et de l'âge de 5 ans jusqu'à 12 ans, 13 ans, on était censé apprendre le Coran. Bon, les plus futés, j'étais pas parmi les plus futés, les plus futés apprenaient entre 5 ans et 10 ans, les meilleurs. En 5 ans, ils apprenaient le Coran. Moi, 5 ans jusqu'à 7 ans, j'en pouvais plus. C'était trop difficile, et puis j'étais l'aîné, j'étais gâté un peu, il faut dire, hein, j'étais l'aîné. Puis il y avait la ribombelle qui arrivait après, nous sommes 9. Hein, donc, et donc je faisais un peu le... Voilà. Et donc j'allais me plaindre auprès de ma mère. Et j'ai dit, est-ce que tu peux pas convaincre mon père? Je veux bien rester à l'école de mon père, il n'y a pas de problème, hein, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il y a possibilité de s'inscrire à l'école des Français? L'école des Français qui était à 50 mètres. Alors bon, après des négociations, etc., donc mon père, qui était très ouvert, m'a inscrit à l'école des Français. Et du coup, donc j'avais l'école coranique, c'était encore pire, l'école coranique, et puis l'école des Français. Et donc les dimanches et le jeudi, le mercredi d'ici, ben, j'apprenais le Coran. Et donc je n'avais pas de week-end. Mais j'étais content quand même parce qu'il y avait l'école de la République. Non pas parce que j'apprenais des choses, je ne comprenais rien. Parce qu'on parlait l'arabe et puis on allait à l'école, on était censé comprendre l'école. Bon, c'était une acclimatation, vous voyez bien. C'était pas la grande pédagogie. Hein. Par contre, ça a un avantage extraordinaire, c'est que j'allais à l'école avec des chaussures. Et avec une chemise propre. Et avec un semblant de cartable. Le cartable était très cher. Bon, les chaussures, c'est sans chaussettes, il n'y a pas de problème. Et donc, je commençais à goûter l'école de la République uniquement par les avantages matériels, mesdames et messieurs. Et le meilleur avantage matériel, c'était une fois par an. Oui, on n'était pas difficile. Moi, mes petits-enfants, maintenant, sont gâtés, mais absolument incroyables. D'ailleurs, je vole leurs cadeaux, je vole leurs jouets, je les donne aux pauvres. Là. Ma femme, elle fait du bénévolat aux Médecins du Monde. Je leur dis, allez, donne, ils en ont trop. Moi, j'avais un gâteau à la crème par an, à Noël. Un, à l'école de la République. Plus un petit jouet, vous savez, les petits jouets en bois, avec les petits ficelles comme ça, Pinocchio et tout. C'était toujours le même, d'ailleurs. Écoutez, on aime l'école de la République comme on peut. Hein. Puis après, j'ai découvert les charmes de l'école de la République, mais quand j'étais un peu plus grand. Donc, déficit d'imams. Où est-ce qu'il faut les chercher, les imams? Ben, là où c'est tout près. Maroc, Algérie, Tunisie. Mais nous connaissons la sociologie des imams. D'abord, on ne naît pas imam. Les imams sont ceux qui ont, pratiquement, dans leur étude sur les sciences religieuses, ne peuvent pas aller plus loin qu'un certain niveau, et ils deviennent un peu comme le prof d'université qui peut aller jusqu'à l'université, et celui qui peut pas, il fait professeur de collège, je sais pas du mépris, hein, professeur de collège, professeur d'école, etc., etc. C'est comme ça, chacun ses aptitudes, chacun son travail. Et là, donc, c'était les imams, c'était les moins formés, et qui ne connaissaient même pas le Coran. Et surtout, parmi les candidats à l'imamat, si j'ose dire, mais il n'y avait pas les meilleurs qui venaient parmi cette population. Il y avait ceux qui étaient cooptés par les gens du village parce qu'ils avaient un cousin ou un oncle en France ou en Belgique. Et comme la contamination islamiste a commencé à se développer dès les années 70, alors vous voyez le résultat. Statistiquement, jusqu'à maintenant, nous avons, à part un pourcentage, disons, de, je ne sais pas, 25%, je ne sais pas, je ne peux pas l'estimer, la majorité des imams, et j'en ai fréquenté, je fais des conférences dans les banlieues et en province, et ils viennent écouter mes conférences, et ils me contredisent. Et je suis obligé de me défendre sur le savoir que je dispense. Eh bien, ce sont essentiellement des gens qui sont incultes, en grande partie, qui connaissent très peu le Coran, qui connaissent très peu la législation religieuse elle-même, et qui ont besoin d'être formés. Ils sont pleins de bonne volonté, mais ils sont venus essentiellement, si vous voulez, ce sont d'abord des réfugiés économiques. Et qui ont trouvé un poste. Ils ne peuvent pas avoir un poste d'instituteur ou de professeur, ils ont un poste d'imam. Voilà. Et puis ensuite, ils se marient ici, ils ont des enfants, et ils s'installent. J'en connais au moins une dizaine. Création d'associations islamiques locales, régionales et nationales. Alors là, en plus de ce qui a été créé par l'Arabie Saoudite, il va y avoir une dynamique qui va faire que des associations autochtones vont être créées, si j'ose dire, en France, sans attendre qu'il y ait de l'argent qui vienne d'ailleurs, parce que la dynamique est lancée. Alors, dans la décennie 80, création de l'Union des organisations islamiques de France, proche des frères musulmans d'Égypte. Là, je vous donne les étiquettes quand je les connais, sinon mon collègue ajoutera des choses après. Parce que les connotations idéologiques, il faut les connaître. Sinon, tout se ressemble. Gère l'Institut de Saint-Léger de Fougeray qui forme les imams. C'est-à-dire, dès qu'on a démarré pour la formation des imams, on a mal démarré. Le ministère de l'Intérieur a donné carte blanche à des institutions qui étaient pilotées idéologiquement. En croyant bien faire, hein. 200 associations vont se créer parallèlement. Pourquoi ? Ben parce que la loi française l'autorise. C'est pas des terroristes, c'est pas des agitateurs, c'est dans l'espace privé, ben ils créent des associations. Vous savez pourquoi il y a eu rapidement des associations ? C'est parce que tous ces gens-là n'oublient pas qu'ils viennent de pays où il n'y a pas la démocratie. Ils viennent de pays où, du moins leurs pères le disent, etc. Et même les jeunes voyagent, ils voient que pour créer une association de culture des champignons, il faut attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans pour que le ministère de l'Intérieur soit convaincu que ce n'est pas une association de couverture pour faire de la politique. Et pour contrecarrer le parti unique ou le parti de X ou de Y. En fait, ils vivent intérieurement des réalités dont ils ne parlent jamais ici. Et c'est un des moteurs de leur comportement aussi. Création de l'Union islamique des étudiants de France, liée à l'UOIF. Mais ça, c'est naturel. Dès qu'il y a une organisation, comme dans tous les pays démocratiques, il y a ce qu'on appelle les organisations satellites. Organisations sportives, organisations culturelles, organisations de tout ce que vous voulez, de cuisine si vous voulez, mais avec une affiliation politique ou idéologique, même très très lointaine. Bien, donc ils vont fonctionner comme des citoyens français. Création de la Fédération nationale des musulmans de France. Ah, celle-là, elle est liée à l'Arabie Saoudite. Donc ne vous étonnez pas que le ministère de l'Intérieur va maintenant perdre beaucoup de temps à trouver des solutions qui arrangent à la fois la sensibilité des frères musulmans, la sensibilité du wahhabisme. Mais tout ça, on ne le raconte pas dans le journal de 20 heures. Parce qu'ils apparaissent tous comme étant les mêmes. Débat sur la laïcité, c'est là où on commence enfin. Donc des Français de culture musulmane vont commencer à contester la laïcité. Avant, personne n'en parlait. Mais la contester selon leur compréhension de la laïcité. Au début, quand je discutais avec ces gens qui discutaient, on discutait avec eux parce qu'on avait des réunions, etc., ils n'avaient jamais lu la loi de 1905. Et personne n'avait pensé la traduire en arabe pour leurs ouailles, pour savoir de quoi il s'agit. Médiatisation des problèmes des banlieues. Alors là, évidemment, il y a une conjonction entre un phénomène purement religieux plus un phénomène idéologique et évidemment les phénomènes socio-économiques du pays, qui ne sont pas les mêmes partout, mais là en France, on les connaît. Décennie 90, développement d'un islam militant. Ça commence là. Hein. Islamiste de l'Inde et du Pakistan. Ça commence par des démarches totalement pacifiques. Ce sont des gens qui ressemblent à ceux que vous voyez qui sont habillés en jaune, là, les sectes. et Krishna. Alors ceux-là sont habillés en blanc, avec des claquettes, même quand il fait très froid, avec une barbe, et ils sillonnent les RER, les métros, les trains, et ils vont voir un citoyen, comme ça, ils ont l'œil, ils trouvent un jeune homme, et vous le voyez en train de parler. Moi, je comprends l'arabe. Je comprends même les accents maghrébins, c'est essentiellement des maghrébins, et ils prennent un jeune comme ça, et pourvu que le trajet soit long, et puis ils lui racontent une sorte, bref, une formation sur le tas. Et ensuite, ils lui donnent le téléphone, ils prennent rendez-vous, et ensuite, ils commencent à intégrer les gens. Voilà, ça se passe au quotidien. Ça se passait au quotidien. Donc, c'est une organisation dont l'origine est indienne et pakistanaise. Eux, ils veulent juste réformer la société, rendre les musulmans plus musulmans qu'ils ne sont dans les pays étrangers. Parce qu'ils ont peur que les musulmans perdent leur origine, leur nature, leur religion, leur âme. Et donc, il faut qu'ils leur donnent des piqûres de rappel. Donc, leur rôle, c'est des piqûres de rappel. Et donc, et ils sont opposés à la violence. Opposés à la politique. Ils ne sont pas pour créer des partis politiques. Et pourtant, c'est le SAS. C'est ça le SAS qui va préparer aux autres activités qui sont politiques ou qui sont ensuite terroristes. Parce qu'on prépare l'individu, surtout un jeune, à accepter les discours de plus en plus qui vont monter en crescendo, qui sont de plus en plus opposés au pays qui les accueille, tout simplement. Islamiste du Maghreb, création du Conseil français du culte musulman. Alors c'est là où intervient le ministère de l'Intérieur, croyant trouver une solution. Nous, intellectuels, je ne suis pas le seul, nous considérons que toute solution construite uniquement sur l'organisation de quelques groupes qui sont censés parler au nom de la masse, alors qu'ils n'ont aucun lien avec la masse, en majorité, c'est un échec dès le départ. Mais on ne nous écoute pas. Nous sommes pour le travail dans la durée. Et puis les hommes politiques sont... Moi, j'ai fait de la politique. Nous sommes impatients. On ne peut pas concevoir un travail dans la durée. Parce que nous n'avons pas la durée pour faire de la politique. On est ministre 1 an, 2 ans, 3 ans. Le président de la République, 5 ans. Bon, sauf dans les dictatures. Mais les dictatures, dans certains pays, ils jouent avec l'islamisme pour être réélus, etc., etc. Donc c'est très, très compliqué. Donc ça devient, la mosquée de Paris devient, au lieu que pendant longtemps elle était un lieu symbolique de rencontre de la pratique religieuse, de la morale religieuse, elle va avoir un nouveau rôle, grâce au ministère de l'Intérieur. Ce sera le point de ralliement, censé être le point de ralliement, eh bien, de la contestation contrôlée. Eh bien, ça ne va pas marcher. 500 imams sont recensés déjà. Vous voyez, ça pousse comme des champignons, très vite. Seuls 4% étaient français. Donc tous viennent de l'extérieur. Et la majorité, quand ils sont arrivés, ne parlaient pas français. Jusqu'à maintenant, la majorité ne parle pas correctement français. Jusqu'à maintenant, la majorité, sinon la totalité, sauf quelques imams des grandes villes, comme Bordeaux, comme Lyon, etc., etc., qui sont des gens cultivés de haut niveau, eh bien, ils n'ont aucune culture, ni française, ni même la culture médiévale arabe. C'est très, très grave. 2000 associations islamiques en France. Ça monte très vite, de 200 à 2000. 1998, revendication d'une structure représentative des musulmans, autre que la mosquée de Paris. Eh bien, voilà. La mosquée de Paris n'est plus représentative. Pourquoi ? Parce qu'elle est centriste, parce qu'elle est contrôlée par le ministère de l'Intérieur et par des pays maghrébins. Oui, parce qu'il y a un deal hein, entre l'Algérie, le Maroc et la France. La décennie 2000, j'ai presque fini, phase de restructuration de l'islam de France. Revendication concrète, lieu de culte, aumônerie, carré musulman, école privée sous contrat d'association. Les revendications, les premières, sont anciennes, mais elles vont se développer avec une pression sur le ministère de l'Intérieur et une pression dans les médias. Parce que les gens qui sont à la tête de ces organismes, à qui on n'a rien demandé d'ailleurs, nous, en tant que musulmans, on ne nous a jamais invités pour des réunions. Hein. Après tout, je suis musulman. Je suis même né dedans et je suis tombé dedans comme Obélix. Mais on ne m'a jamais invité à une réunion. Bien, eh bien, ils sont représentatifs. Mais ils deviennent donc, grâce aux médias, grâce à Internet maintenant, et ils sont les interlocuteurs. Et ils demandent plus maintenant parce qu'ils demandent des écoles privées sous contrat d'association. Sur le plan strictement légal, ils ont raison. Les religions de France fonctionnent sous le contrôle, sous l'égide de la loi de 1905, sauf les pratiques religieuses du Concordat, comme vous le savez, en Alsace-Lorraine. Bien. Et donc, que vont faire les musulmans? Ils vont dire, ben nous, nous voulons être comme les chrétiens et les juifs. Nous voulons avoir les mêmes privilèges. Mais on leur dit, mais ces privilèges, ils les ont eus avant la loi de 1905. Donc on a dû conserver certains. Et ils répondent, oui, mais vous avez donné des privilèges aux chrétiens et aux juifs d'Alsace. Donnez-nous les mêmes privilèges. Vous voyez, là, donc le raisonnement tient. Bien. Et ils parlent en tant que français, hein, toujours, bien sûr. Ce n'est pas les étrangers qui viennent parler, ils n'ont pas le droit de parole, les étrangers. Donc, école privée sous contrat d'association. Là, les écoles privées, on ne peut pas être contre, parce que la France est divisée, il y a des écoles privées, des écoles publiques, etc., etc., les qualités sont très différentes. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va enseigner dans ces écoles et dans ces lycées? Alors, ils ont un contrat, parce que l'État a cédé. Et donc, ils ont une charte. Mais le problème, c'est que, comme ce sont des expériences nouvelles, la charte n'est pas toujours respectée. Parce que, et puis il n'y a pas tellement de contrôle. Et il y a de temps en temps des éléments dans les médias qui montrent que, en fait, on détourne la charte qui a été signée et on fait du prosélytisme dans ces lycées, tout en préparant le baccalauréat pour les jeunes. Non, pour ça, ce sont même des jeunes très brillants, etc. Ils réussissent aux examens, à l'université, mais ils sont formatés différemment. Et selon la loi française, ils ont le droit de faire ça. Tentative étatique d'organiser l'islam de France, une énième fois. Rôle, prolifération des sites internet et des chaînes satellitaires à caractère religieux. Alors là, c'est un phénomène qui n'a rien à voir avec la France, qui est indépendant de toutes les initiatives prises, bonnes ou mauvaises, mais qui va aggraver la situation. Et on n'en a pas pris conscience à temps. Je vais rapidement vous montrer juste quelques images. Il y a 900 chaînes satellitaires généralistes. En arabe et dans les langues des pays musulmans. Le persan, l'ourdou, etc. Alors voici les noms, Nilsat, Intelsat. Alors ce sont des chaînes soit payantes, soit gratuites, parce qu'il suffit d'avoir une petite boîte, on l'achète une fois pour toutes, et puis ça marche. Alors la chaîne la plus célèbre, qui est la moins virulente, c'est celle-là, Al Jazeera. Elle est la moins virulente, mais comme elle est vue par beaucoup de gens, et surtout par... une partie de l'intelligentsia des pays musulmans, eh bien, elle a beaucoup d'effets. Et l'impact est plus important. Elle a une partie information qui est beaucoup plus objective que les médias arabes et musulmans. Donc, du coup, elle est reconnue comme ayant un caractère international, une qualité internationale. Elle a une émission qui s'appelle L'Opinion, qui est très démocratique parce qu'on donne la liberté de parole à tout le monde. En fait, c'est pas à tout le monde, on choisit. Mais quand on regarde, si vous comprenez l'arabe, ben vous écoutez, c'est un plaisir, c'est vraiment un débat démocratique dont rêvent les Arabes chez eux. Mais ça se fait sur Al Jazeera. Le seul problème, c'est que c'est un débat démocratique, mais qui est ciblé, par exemple, contre la politique d'un État musulman. Par exemple, là, aujourd'hui, il y a des débats démocratiques sur Al Jazeera pour taper contre le régime syrien. Parce que le financement, on sait d'où il vient. Le régime syrien est refusé par les orthodoxes parce qu'il est allié aux chiites, etc., etc. Donc en fait, c'est une démocratie, mais contrôlée. Il y a une émission sur la prise de conscience. Alors là, on commence à toucher à la religion. Et puis il y a des émissions à caractère religieux qui sont... Si vous êtes patient, vous attendez 10 heures du soir. Moi, quand je suis en mission, je suis à l'hôtel, je m'ennuie. Donc je zappe. Dans les hôtels, il y a les chaînes comme ça. Il y a 900 chaînes à chaque fois. Bien. Il y a point de vue. Alors là, point de vue, en fait, c'est pas point de vue sur la démocratie, sur les élections législatives, non, non. C'est sur les questions religieuses. Avec intervention des téléspectateurs et avec le téléphone gratuit. On peut appeler gratuitement. Et on appelle de tous les pays arabes. Témoins de l'époque. Donc ce sont de grands personnages qui viennent parler. Il y en a qui parlent très très bien de politique, des coups d'État, etc. Puis il y en a qui parlent de religion. Et puis... Rencontre d'aujourd'hui, alors on s'arrange aussi pour inviter quelques idéologues qui parlent de l'islam. J'en ai écouté des émissions de ce type. Et enfin, là, carrément, c'est la charia et la vie. C'est une émission spéciale qui est là le soir et qui répond aux téléspectateurs toutes les questions qui vous tracassent sur votre manière de vivre l'islam. Et si vous n'êtes pas sûr que vous êtes dans la bonne voie, il y a un monsieur... qui est bien sur lui, qui est bien habillé, qui a une bague en or, qui est barbu, qui est bien taillé, la barbe, et qui est un savant, et qui vous répond spontanément comme ça. Il connaît bien la religion. Et il vous répond sur toutes les questions, même les plus indécentes, même sur les relations sexuelles dans un couple. Parce qu'il dit, en religion, il n'y a pas d'interdit. Il faut parler de tout. Dieu nous autorise à parler de tout pour être un bon musulman. Et évidemment, donc les gens regardent beaucoup. Il y a une grande audience de ces choses-là. Mais ça, c'est une télévision qui n'est pas ciblée. Elle est pour grand public. Alors là, je vais vous montrer les télévisions ciblées. 136 chaînes islamiques. Voilà. Dans toutes les langues. Bon, là, ça se voit bien. Là, le Coran. Hein? Voilà, encore. Là, c'est le Coran. C'est Iqra, l'Arabiya, etc., etc. Bon, certaines ne sont pas vraiment idéologiques, comme l'Arabiya, c'est une chaîne financée par l'Arabie saoudite, qui est à la fois politique et... Et puis, il y a même maintenant, c'est devenu du business. Et ça atteint la France. Et il y a une offre internationale de 29 chaînes islamiques. Là, voilà, Islambox. Pas cher. Vous achetez le boîtier. Et voilà ce qu'ils disent pour vendre. La télévision islamique est devenue une partie intégrante de la vie des musulmans vivant partout dans le monde. Et particulièrement de ceux qui vivent en Occident. Où il y a tant de chaînes inappropriées. Ah, maintenant, il va différencier. Les musulmans du monde entier peuvent, grâce à ce Islambox, visualiser les 5 prières quotidiennes de la Mecque et Médine, grâce à l'Islambox, et à travers Saoudi TV 1, Saoudi TV 2. C'est clair. Attendez. Les musulmans originaires du Pakistan et de l'Inde, parce que c'est ciblé, et qui vivent en Occident, peuvent apprendre l'enseignement islamique à travers PIS TV, Urdu, Nour TV, Canal Umma. Les musulmans originaires du Moyen-Orient et qui vivent en Occident peuvent regarder Al-Majd, Satellite, Channel, etc. Alors une partie c'est d'Arabie Saoudite, une autre des pays du Golfe. La jeune génération peut, pour connaître sa religion et sa culture, se tourner vers Guide US, TV Islam, Channel, PIS TV, etc., etc. Puis la dernière, on ne la voit pas. Hein, on la voit pas. La dernière, c'est pour les tout petits enfants, pour l'éducation des enfants par satellite. Et j'ai trouvé une offre commerciale française. Là voilà. 3,99 €. Vous avez 5 chaînes, maintenant il y en a plus. Et qui est-ce qui vend ça? Free. Bon, si vous voulez l'argumentaire, je vous l'envoie. Mais c'est trop long. Et enfin, quelle est la tendance maintenant? Poursuite du processus de diversification sociale, ça on n'y peut rien. Corrélation entre inégalité, échec scolaire, chômage durable, ségrégation et importance accordée à la religion. Il y a une corrélation plus ou moins importante. Même si ça ne vous plaît pas, mesdames et messieurs, c'est de mon devoir de vous dire que les intellectuels, les spécialistes dans le gouvernement français y réfléchissent maintenant très sérieusement. Mais ils n'ont pas de solution miracle. Parce que ce sont des solutions de longue durée. L'insertion socio-économique et culturelle est de longue durée. Affirmation musulmane croissante chez les Français de 18-25 ans, issus de l'immigration du Maghreb, du Sahel et de Turquie. Le grand problème, ce n'est pas les tout jeunes encore, ce n'est pas les plus vieux. C'est cette tranche. 90% respectent les prescriptions alimentaires et le ramadan. Bon, après tout, c'est leur affaire. Le problème n'est pas là. 30% des 21-25 ans font la prière. Le pourcentage est moins chez les vieux. Alors que dans les pays musulmans, c'est les vieux qui font le plus la prière, qu'ils faisaient avant. Je me souviens, mon père était imam, et le vendredi, c'était la grande journée de la grande prière, et le village avait quand même 10 000 habitants. Il avait si peu de fidèles, pas plus de 12, je me souviens toujours, quand j'étais petit, qu'il appelait les élèves de son école coranique pour remplir les rangs derrière. Et nous, on se mettait comme ça derrière, en culotte courte d'ailleurs, on ne nous interdisait pas, il était ouvert. Puis on se mettait, donc il y avait deux rangs de citoyens qui payaient leurs impôts, etc., dans un village colonial très prospère, parce qu'ils vivaient sur les tomates, les concombres, les cornichons. Et puis nous, on était là, on priait Dieu, et il y avait, grâce à nous, il y avait 4 rangs dans une mosquée, 4 rangs. Sur 10 000 habitants. Et là, aujourd'hui, non, ça a complètement changé. Aujourd'hui, les jeunes, dans le village, dans mon village, où il y avait ma mère, pour montrer qu'ils sont de bons musulmans, ils vont le vendredi avec un petit tapis sur l'épaule, comme ça, fièrement, pour montrer qu'ils vont à la mosquée. Nous, on nous a jamais élevés avec un islam de comportement. Si on prie Dieu, on le prie discrètement. Impact plus grand des événements internationaux sur les musulmans de France. Normalement, vous devriez inviter un jour quelqu'un qui soit plus crédible que moi, parce que moi, je suis des deux rives, hein, donc parfois, vous n'êtes pas obligé de me suivre, parce que je vois les choses d'intérieur. Invitez Gilles Kepel, et puis d'autres. Et puis, il vous explique pourquoi les événements de Palestine sont très prégnants dans la tête des jeunes, maintenant. Beaucoup plus des jeunes que des vieux. Les événements d'Irak, les événements de Syrie, pas les événements, le Daesh, non, ils voient autre chose. Les événements de Libye, les événements de Tunisie, ils sont empoisonnés par ça tous les jours. Et puis ils écoutent des canaux que vous n'écoutez pas. Bref, donc, c'est la mondialisation. Et même les phénomènes islamiques sont mondialisés par leurs effets négatifs et sont mondialisés. Voilà. Radicalisation plus grande et passage à l'acte terroriste. La dernière photographie des musulmans en France, nous l'avons vue en septembre 2016. C'est l'analyse d'un sondage fait par l'IFOP. L'analyse est faite par l'Institut Montaigne, qui est un institut, si vous voulez, où les intellectuels pensent pour les hommes politiques. Je crois qu'on va me retirer ma carte de résident. Là, c'est la photographie qu'on a eue. 46% des musulmans de foi ou de culture ont pas ou peu de revendications d'expression religieuse dans le quotidien. Ça rassure. On n'en parle jamais. Ils placent la loi de la République avant la loi religieuse. 25% ont une forte pratique religieuse. Donc ça fait 71%. Ils sont souvent favorables à l'expression de la religion au travail. Mais ils ont intégré la laïcité. Ils l'ont intégré comme étant un fait. Si vous voulez, un chapeau dans lequel ils vivent. Ça ne veut pas dire qu'ils l'appliquent constamment. Bien. Mais déjà, donc ça fait 71% de citoyens de culture musulmane au sens très diversifié qui, normalement, ne posent pas problème. D'accord ? 28% contestent la laïcité. Ça correspond exactement à la tranche d'âge 18-34 ans. C'est la même. C'est-à-dire l'autre, on l'a faite il y a 10 ans. Ils considèrent que la foi appartient autant à la sphère privée qu'à la sphère publique. Ils refusent de séparer. Ils sont majoritairement favorables à l'expression de la religion au travail. C'est-à-dire transformer l'espace public en un espace privé. Ronger l'espace public. En guise de conclusion, il y a des caractéristiques stables et des dynamiques, selon mon regard, qui est tout à fait modeste avec la subjectivité d'un citoyen qui vit sur les deux rives. Diversité des différentes communautés. Interaction entre le culturel, le socio-économique et le politique. Il est impossible maintenant de séparer les choses. Clivage intergénérationnel. D'où la grande responsabilité de l'école pour les générations à venir. Il faut travailler maintenant pour les générations à venir. Pas de clergé compétent et représentatif. C'est dans les périodes de crise, ce n'est pas un atout. Dans les périodes de calme, c'est un atout. Parce qu'un clergé donne le « là ». Il y a le chef du clergé qui donne le « là ». Et donc il prévient les déviances, entre guillemets déviances bonnes ou mauvaises, parce qu'il y a des déviances qui deviennent l'histoire. Et il dit, non, la bonne voie c'est ça. Et en général, il y a une majorité qui suit. Dans l'islam orthodoxe, 80 à 85% ne croient pas au clergé. C'est culturel, c'est profond. Moi, je n'ai jamais fait de confession devant un imam, ça n'existe pas. Je n'ai jamais été dire à quelqu'un, j'ai fait telle faute et telle faute et telle faute. On m'a appris que je vis normalement, j'essaye de vivre en bon musulman, et puis, de toute façon, à la fin, je ne sais pas quand d'ailleurs, à la fin, il y a Dieu qui m'a réservé 2 tablettes, pour chacun, hein, il faut beaucoup de boulot. Une tablette des bonnes actions et une tablette des mauvaises actions de toute ma vie. Et là, il fait ça, et puis il ajoute des... Il doit avoir des coefficients, quelque part. Ah ben, moi, je... Vous me comprenez, je compte sur les coefficients, parce que... Puis surtout, je compte sur une parole du prophète que je crois être authentique, même si elle ne l'est pas. Le prophète a dit, devant Dieu, au jugement dernier, Dieu peut préférer un homme de science à un homme qui a passé toute sa vie à faire la prière. Donc j'ai des chances, monsieur Fournier. Sous-représentation de la majorité silencieuse, c'est ça le grand problème en France. Faites-les parler à la télé. Ils ont des choses à dire. On ne me fait jamais parler. On me fait parler sur France 2. Je suis le spécialiste de service pour parler des bons musulmans qui ont apporté la science à l'Europe. Mais il faut parler des méchants, il faut parler des autres qui sont entre les deux. Il faut parler du vécu de l'islam, mais d'une manière naturelle, normale. Et ça ne suffit pas de mettre une présentatrice du journal de 20 heures d'origine maghrébine. Ça ne suffit pas. Hier soir, c'était elle. Des dynamiques de rupture. Alors, il y a des dynamiques négatives et des dynamiques positives. La dynamique communautariste va continuer par l'intermédiaire des médias, des associations et d'Internet. Et puis, on ne peut pas arrêter les médias et Internet. Les associations, on peut éventuellement soit créer des associations, des contre-associations, développer la citoyenneté et surtout, développer l'école, bien sûr, le travail de l'école. La dynamique des prêches et des activités à caractère identitaire, ça va continuer. Tant qu'il y a un vide, tant que l'école n'a pas bouché les trous, elle n'a pas réussi encore à boucher les trous, mais c'est pas de sa faute, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Hein. Vous savez que j'étais à Trappes, il y a 5 jours. C'est à Trappes où il y a eu des choses absolument incroyables, il y a quelques années. Eh bien, j'avais des classes de seconde, première. Pratiquement à 90%, c'était la tour de Babel. Hein. Donc il y a peut-être 40, 50 nationalités dans le lycée. Je fais ma conférence sur les sciences. Les jeunes, écoutez, silencieusement, respectueusement, la première fois où ils sont intervenus, lorsque j'ai dit qu'une parole du prophète n'était pas authentique. Une levée de bouclier. Comment vous osez dire ça ? Alors j'ai repris toutes mes armes de pédagogue, de prof, et j'ai essayé d'expliquer que ce n'est pas moi qui dis qu'elles sont authentiques. Ce sont les meilleurs spécialistes de l'islam du 9e au 12e siècle qui ont étudié les paroles et ils ont dit elles ne sont pas authentiques parce qu'il n'y a pas assez d'intermédiaires pour les rapporter, parce qu'il n'y avait pas de magnétophone à l'époque. Ben, il faut mettre de l'humour, etc., etc. Puis il n'y avait pas de télévision. Mais par contre, ce n'est pas grave si elle n'est pas authentique. C'est qu'elle est devenue très célèbre. Et c'est une bonne parole attribuée, même faussement, au prophète. Et j'ai dû désamorcer comme ça. En fait, je leur apportais des éléments, des clés, pour essayer de lire leur propre histoire de leurs ancêtres. Ils sont déjà formatés pour uniquement... Ils sont préoccupés par les questions qui tournent autour, non pas de la religion, mais de l'aspect anecdotique de la religion. Et ça, c'est l'islam des banlieues, l'islam des villes de province. C'est ça le grand problème. Et il y a la dynamique de la violence. Mais il y a des dynamiques d'intégration, quand même. Moi, je suis optimiste. D'abord, je suis obligé d'être optimiste parce que j'ai des petits-enfants qui sont nés ici. Ma fille est née ici. Et ce sont des Français. Ils vont grandir là. Et je ne peux pas être pessimiste, sinon on ne peut pas vivre. Alors, il y a l'école. Ce n'est pas parce que j'étais instituteur, puis enseignant au lycée, puis professeur d'université. L'école... J'ai été à l'école de l'islam et j'ai vu quel était son rôle. J'ai appris le Coran pendant 4 ans sans jamais comprendre un verset du Coran que j'apprenais par cœur. Jamais. L'arabe que j'apprenais n'avait pas de sens pour moi. Parce qu'on ne m'avait pas enseigné la grammaire, la morphologie, etc. On ne m'a pas enseigné la littérature. Il a fallu que j'aie 12 ans, que je passe un examen, que j'aille dans un lycée à Alger pour que je puisse enfin accéder à la littérature, à l'histoire, etc., etc. Donc si on enferme un enfant dès le départ, c'est la catastrophe. Si on commence à ouvrir et à se battre, donc l'école peut jouer un rôle dans la durée. par l'engagement citoyen ou politique. C'est-à-dire, je ne parle pas de vous. Il faut que, parmi les 4 millions de Français d'origine musulmane ou de culture musulmane large, et c'est un phénomène qu'on observe maintenant qui se développe, il faut qu'ils s'impliquent dans la société française. Pas seulement en tant qu'acteur, pas seulement en tant qu'écrivain, en tant que député, en tant que membre d'une liste électorale, et il devient membre du conseil municipal. Et on voit le phénomène se développer aujourd'hui. Ce sont des nouvelles générations qui assument le fait qu'ils sont français, et pour être encore français comme tout le monde, ben ils vont participer à la gestion de la société. Il faut qu'ils aient des responsabilités. Tous ces jeunes-là qui se fracassent la tête n'ont pas de responsabilité. Ils gèrent des rêves. Par l'insertion économique et sociale. Ben ça, c'est le grand problème, bien sûr. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. C'était super, comme d'habitude. Donc, je vous propose de passer tout de suite au jeu des questions et des réponses. Donc, qui veut se lancer dans cet exercice périlleux ? Donc, là, vous êtes tétanisé ? Non, Tonia, allez.
C'était très intéressant, bien sûr. Je voulais juste poser une question au niveau, justement, des axes d'amélioration qui peuvent être faits. Bon, on parlait de l'école, de la prise de position, le rôle des femmes. Jamais une fois on parle des femmes.
Alors, là tout mon discours concerne les deux. Hein. Non, ça va de soi. C'est... J'ai même eu des problèmes lorsqu'il s'agissait, quand je commençais à préciser dans les pays où je fais des conférences, la question des femmes. Comme ici, c'est évident, quand je parle des jeunes de 18 à 25, à 35 ans, il y a même parfois la majorité dans une classe d'âge qui sont des femmes, qui sont encore plus engagées, plus radicales encore. Donc il faut faire attention. Mais là, c'est mon collègue qui en parlera plus en détail peut-être, s'il a des biscuits. Moi, j'ai pas de biscuits sur cette question-là. Je vous donne juste un exemple. Je suis d'une famille de religieux. Nous sommes 9, je suis l'aîné, et donc j'ai à peu près entre 40 et 45 petits-neveux et nièces. Je dis entre 40 et 45 parce que comme ça bouge d'une année sur l'autre, j'arrive pas à avoir les statistiques. Évidemment, je connais pas leurs prénoms, mais je les ai vus grandir. Depuis 30 ans, je vais en vacances avec ma femme, on apporte des cadeaux, etc., etc., donc on les a vus grandir, et ceux qui étaient bébés ont maintenant des enfants, etc. Bien. Qu'est-ce que je vois ? Je vois une évolution qui est très intéressante. C'est que, d'abord, tout ce qui est politisation de l'islam vient de l'extérieur, de la rue. Ça, c'est clair. Donc, ce sont les hommes. Mais tout ce qui est stabilisation de l'islam idéologique ou culturel, c'est les femmes dans leur enfermement. Elles élèvent les garçons et les filles en les préparant à un certain type de comportement. Qui, en temps normal, n'est pas dangereux. Que m'a appris ma mère ? Ma mère m'a appris que, avant que mon père me récupère, hein, parce que mon père, c'est la science. Enfin, la science à 50%. Puis mon grand-père, c'est la grande science, et il est l'équivalent d'archevêque. Bon. Ma mère, qu'est-ce qu'elle me disait ? Pour être bon musulman, il faut commencer par les bonnes habitudes. Il faut d'abord respecter père et mère. Oui, c'est la morale. Grand-père, grand-mère. Il faut, quand tu as du pain sur le trottoir, il faut le ramasser, l'embrasser et le mettre au-dessus parce que le pain, c'est la nourriture de l'être humain. Vous le respectez. Quand tu mets tes chaussures, n'oublie jamais, il faut toujours mettre la chaussure, le pied droit dans la chaussure droite. Alors ça, là, c'est pas l'islam au sens de... Ça veut dire qu'elle mélange le paganisme avec peut-être une recommandation du prophète un jour, il a dû dire ça, et puis bon. Alors qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai 75 ans, mesdames et messieurs. Ce matin, je me suis réveillé, j'avais peur de rater le train parce que j'avais jamais pris le train à Bercy. Je ne sais pas comment aller à Bercy. D'habitude, c'est le TGV. Et dans l'affolement, j'ai mis mon pied dans la chaussure gauche. Et j'allais sortir. Eh bien, je vous jure, c'est un juron de mécréant. Hein. Donc, je suis revenu et j'ai remis mon pied droit dans la chaussure. Ça s'appelle des réflexes culturels. Alors, ces réflexes culturels, plus le badigeonnage qui vient après, plus la formation, le discours idéologique, en fait, c'est les bases qui préparent un jeune à devenir quelqu'un de terrible, de dangereux pour lui-même et pour la société. Parce qu'il faut des bases. Voilà. Et ça, pour éliminer tout ça, ben c'est l'école. L'école de la République m'a permis de relativiser un peu ces histoires de chaussures, ces histoires de quand il faut boire, il faut dire au nom de Dieu, etc., etc. Mais je continue à le dire quand il y a des hommes religieux en face de moi, parce que sinon ils seraient choqués. Donc vous voyez, il y a une religion de comportement qui est très très gênante. Voilà. Donc, pour revenir aux filles, eh bien les filles, moi je les ai vues, toutes les filles de ma famille, ma mère était analphabète, elle est décédée à 90 ans, eh bien, aucune ne portait le foulard. Aucune. Et puis, il y a eu un clivage dans la famille. Il y a deux familles. Donc, mon frère médecin, comme par hasard, c'est les situations économiques. Mon frère médecin, un autre frère qui a fait du pétrole au Sahara. Eh bien, leurs enfants, leurs filles ne portent pas de chador. Tous les autres, de couche sociale inférieure, vivant dans des villages où l'enfermement est plus grand, eh bien, à partir d'un certain moment, elles ont commencé à mettre le foulard, et leur seule raison est la suivante. Si on ne les met pas, les garçons nous insultent et nous disent qu'on n'est pas des filles sérieuses. Donc ce n'est même pas la religion qui intervient, ça commence par un type de comportement. Il y a les filles sérieuses et les filles qui ne sont pas sérieuses. Voilà. Et ça commence comme ça, puis ensuite, évidemment. Alors, les filles sont moins contaminées par un discours religieux structuré quand elles restent enfermées dans le milieu féminin. Et puis en plus, elles ont moins l'occasion d'aller écouter les discours structurés. Pourquoi ? Parce que dans les mosquées, il y a très peu de femmes. Même s'il y a une place. Moi, je suis allé faire des conférences même dans des mosquées. Et quand j'ai fini la conférence, j'ai appelé l'imam. Je dis, monsieur l'imam, vous êtes imam en France. Quand est-ce que vous allez changer ? C'est pas possible. On peut concevoir un islam moderne. Où sont les femmes ? Et il me dit en souriant, mais elles sont là-bas en haut. Je ne les avais même pas vues. Il y a un coin, en haut, complètement, enfermé. Elle écoutait la conférence, mais elle ne pouvait pas me voir. C'est fou, ça. Donc, il y a un enfermement qui est de type sociologique et culturel qui va renforcer la prégnance de cette nouvelle religion militante. Et puis, il y a le dernier élément. Ce n'est pas des femmes de 40 ans qui vont mettre une bombe. C'est des adolescentes. Les adolescentes, ce sont nos enfants. Je vous raconte une anecdote qui est pédagogique. Je raconte jamais des anecdotes comme ça, comme des histoires de bistrot. On me remercie du ministère en 16 avril 1994. J'attends pour qu'on me donne un autre poste, c'est la tradition. On me dit, si tu veux, on peut te donner un poste d'ambassadeur. J'ai dit, je refuse. C'est pas ma vocation de porter les valises des hommes importants qui viennent dans les capitales étrangères. Voilà. Donc j'ai dit, je reviens à mes étudiants. Nous revenons en France. Et nous avons une fille qui avait donc 12 ans à l'époque, 13 ans, et elle est restée 2 ans à l'école algérienne, travaillée par les professeurs d'instruction religieuse, dans la classe, enfermée, malgré le fait que l'État dans son fonctionnement est laïque, c'est ça qui est étonnant, beaucoup d'États arabes et musulmans, dans leur fonctionnement, à la fois à l'international, à la fois au niveau de la gestion de la société. Ils sont laïcs, pas séculiers, ils sont laïcs. Mais ils gardent le côté religieux pour des raisons de gestion de la société. Par exemple, ils gardent le code familial. C'est complexe, c'est contradictoire. Et puis, ils mettent des islamistes au gouvernement pour pouvoir diviser, pour régner. Mais ça, c'est de la politique politicienne. Bien. Donc, ma fille revient, elle a 13 ans. On l'inscrit à l'école, puis on l'inscrit dans des groupes sportifs de Boulogne. On habite Saint-Cloud, bourgeoisie de Saint-Cloud, il n'y a pas de plus vaccinés, on est d'accord. Et un soir, c'était le premier jour de Ramadan, elle vient et elle nous dit, moi je fais le Ramadan, d'un air provocateur, et je ne mange pas avant le coucher du soleil. Alors, sa mère commence à faire toute une scène, etc. Ça, comment on t'a élevé, les grands discours laïcs. Pourtant, ma femme est catholique. Hein. Alors j'ai dit à ma femme, c'est une mauvaise pédagogie. Demain, tu lui diras la chose suivante. Ma fille, tu as le droit de faire le ramadan. Aucun problème. Le seul problème, c'est que on t'a élevé jusqu'à l'âge de 13 ans, avec toujours, c'est les habitudes bourgeoises de Saint-Cloud, dîner à 7h30. Le coucher du soleil, il est à 10h, ce jour-là, cette année-là. Donc tu te débrouilles. Tu fais ta cuisine. Elle a fait le ramadan pendant 3 jours. Elle était vaccinée. Mais surtout parce qu'elle était entourée. C'est tout ce que je peux répondre. Si, j'ai des analyses, j'ai écrit des articles sur la place des femmes en Algérie, sur le rôle de l'éducation. Regardez, en Algérie, c'est l'un des pays qui a réussi à scolariser le maximum de femmes dans les pays arabes et musulmans. Pratiquement maintenant, à 90%, les filles sont scolarisées. 95%. Et c'est le pays où j'ai observé en tant que ministre, en 1993, j'ai remarqué, d'après les statistiques qui me parvenaient, que pour la première fois, le nombre de bacheliers en Algérie étaient des femmes et pas des garçons. Le nombre d'enseignants dans le primaire et dans le secondaire, c'était des femmes et pas des garçons. Eh bien, je n'ai pas applaudi pour autant. Ça, c'est ce qu'on appelle la photographie quantitative. La photographie qualitative, c'est elle qui est la plus importante et que les ministères de l'Intérieur ne voient pas, n'entrevoient pas. C'est à quoi ça sert d'être diplômé, d'être majoritairement diplômé, lorsque sur le plan de la citoyenneté, elles sont aussi réactionnaires que les hommes, sinon plus dans certains domaines. Et là, il n'y a plus hommes et femmes. Elles sont même plus dangereuses parce que c'est elles qui élèvent les enfants. Et voilà. Une question ? Ah, je vous ai refroidi. Moi, je suis anticonformiste, j'ai pas de langue de bois. Là, je l'ai appris vraiment à l'école de la République. Puis après, je l'ai appris dans la grande civilisation, parce que vous savez, vous avez intérêt de temps en temps, quand vous vous ennuyez, surtout quand les programmes sont très mauvais à la télé, lisez un peu ce qui a été fait dans la civilisation grecque et le prolongement à la civilisation musulmane. Parce que ce qui a prolongé l'ère des Lumières grecques, ce n'est pas l'Europe médiévale. C'est la civilisation de l'islam des 9e, 11e. Vous arrêtez-vous au 11e.
En ce sens, on peut dire des
Tariq Ali,
pas
Tariq Ali. Oui, bien sûr, oui, oui.
Ça donne une bonne
oui, oui.
Générale sur ce qui s'est passé du 9e siècle jusqu'au 15e.
Ah ben, il faut aussi lire mes livres. En plus, c'est une copine et elle donne à l'autre auteur un concurrent. Il faut le faire, hein. Par contre, c'est pas Tariq Ramadan, hein, faut pas confondre.
Non.
Une autre question. Je vais poser, c'est pas une question, c'est un commentaire, parce qu'on a déjeuné ensemble. Est-ce que vous pouvez revenir sur le problème de la compréhension du politique de tous ces phénomènes-là? Vous dites le politique, il est à court terme, alors que vous dites par ailleurs que s'il y a des solutions, elles ne sont qu'à long terme. Comment résoudre cette contradiction?
La contradiction, c'est que je crois qu'il a fallu attendre le phénomène de la violence au nom d'une religion pour prendre conscience qu'il faut labourer profond. Bien sûr, il faut toujours labourer pour espérer récolter. Mais le labourage traditionnel, c'est le labourage des hommes politiques qui n'ont pas le temps de gouverner, quelles que soient leurs bonnes intentions. Au mieux, un homme politique peut suivre son dossier 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi, j'ai duré 2 ans et demi. Je voulais faire une réforme. Mon chef de gouvernement a demandé au pouvoir réel 5 ans pour lancer la machine. On nous a dit, on vous donne 5 ans. Et on était content parce que quand vous lancez une machine, ceux qui viennent après, ils continuent à appliquer. Ils ne peuvent pas arrêter une machine très lourde. Surtout quand il y a un consensus minimal des citoyens. Bien. Eh bien, mais dans nos démocraties aujourd'hui, et dans nos pseudo-démocraties de l'autre côté de la Méditerranée, ceux qui dirigent, quelle que soit leur vilainie, quelle que soit leur qualité, ils courent derrière le temps. Ils n'ont pas le temps d'appliquer ce qu'ils pensent être bien pour la société, quand c'est bien. Et ça, c'est une dynamique générale. Voilà. Donc, il faut de la durée. Donc, dès maintenant, il faut la durée, c'est surtout, c'est l'école. C'est l'école. C'est l'activité associative. Vous êtes responsable. Par exemple, j'ai été étonné de savoir que dans une ville moyenne, ici, qu'il y ait 4 mosquées. Dieu sait que je suis donc d'origine musulmane, etc. Mais moi, dans une ville qui était aussi grande que Chalon, il y avait une mosquée. Et c'était vraiment très très bien, et puis c'est tout.
Même petite.
Oui, même petite, celle de mon père était toute petite. Mais parce que le problème de l'islam, c'est contrairement au christianisme, on n'est pas obligé d'être dans la mosquée. Que lorsque vous multipliez les mosquées, bon, je vais me faire étriper par mes co-religionnaires. Vous multipliez les mosquées, vous multipliez d'abord les chapelles, sans faire jeu de mots facile. Vous multipliez les chapelles. Ces chapelles, au départ, sont nationalistes. Il y a la mosquée des Tunisiens, la mosquée des Marocains, la mosquée des Algériens, des Turcs. Il y a au moins 4 chapelles. Et il n'y a pas encore la mosquée des Africains, parce qu'il y a moins d'imams maîtrisant le Coran, donc ils vont chez les Maghrébins en général. Bon. Donc, quelle est la raison de ce clivage? Il est uniquement nationaliste, mesdames et messieurs. Et souvent entretenu, piloté par les États de l'autre côté. Parce que les mosquées sont des officines aussi. Donc il faut au moins se libérer de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de mosquées. Il faut que les gens prient normalement, comme tous les autres. Mais en pays d'islam, du 9e siècle jusqu'au 14e siècle, il y a ce qu'on appelle la mosquée cathédrale, où les gens se réunissent le vendredi. Mais toutes les autres mosquées, ce sont des petits locaux où chacun dans son quartier fait sa prière. Sans qu'on sache que c'est une mosquée. On n'a même pas à l'appeler mosquée. Or, pourquoi on les appelle mosquées? Pourquoi on insiste pour qu'il y ait un minaret? Mais je leur dis, nom de Dieu, dans mes conférences, mais le nom de Dieu, le prophète n'avait pas de minaret. J'ai une image d'Épinal qui montre que le prophète, quand il faisait la prière à la Mecque, n'avait pas de minaret. Et il disait à son muezzin de monter sur la Kaaba. Et nous avons des miniatures où on montre le premier muezzin de l'islam, qui est un ancien esclave affranchi par le prophète, qui s'appelle Bilal. Et alors il monte sur la Kaaba, il appelle à la prière. Et puis ensuite on a multiplié, en fait les minarets on les a créés dans les grandes villes pour la prière du vendredi, pour qu'il y ait le plus de citoyens possible qui viennent à la mosquée, non pas avec l'idée généreuse de faire la prière auprès d'un grand imam, mais non, c'est pour ensuite écouter le discours politique du pouvoir local. Et donc il n'y avait pas de télévision et pas de radio. Il faut qu'il y ait le plus de citoyens qui viennent écouter le message, le bon message. Et c'est tout. Mais sinon, Bagdad, on l'appelait la ville des 10 000 mosquées. Ça veut dire quelques mosquées cathédrales, puis des petites mosquées de quartier. Voilà, c'est tout. Mais aujourd'hui, pourquoi ces mosquées sont devenues un combat symbolique? Je vous l'ai expliqué. Parce que d'abord, il y a eu les premières décennies de frustration, où on faisait des prières dans les caves. Bon, donc il y a une réaction. Et deuxième réaction, c'est parce que la mosquée, en la montrant, c'est une manière de s'identifier et de montrer à l'autre que nous sommes ici et nous avons une personnalité collective. Voilà. Nous sommes au stade où les musulmans de France sont en train de conjuguer le concept de personnalité collective. Il n'y a pas encore d'individualisation. Nous, on peut s'individualiser. Nous sommes des élites, donc moi, j'ai besoin de personne, c'est mon travail qui a fait que je suis là. L'autre jour, j'ai reçu une invitation de la ville où je suis né. La ville où je suis né, bizarrement, alors que mon père était un nationaliste pour l'indépendance, s'appelait Dupéré. Alors, si vous ne savez pas, Dupéré, c'est le nom de l'amiral en chef de la flotte de Charles X qui a débarqué en Algérie pour la colonisation. Et après, on lui a redonné son nom, qui est très joli, qui s'appelle la Fontaine des Lauriers Roses, en arabe. Voilà. Et alors, ce qui est, entre guillemets, il y a une semaine, j'étais à La Rochelle, invité pour la première fois. Et université du temps libre aussi. Mais ils ne me connaissaient pas. Donc ils attendaient, qui c'est cet oiseau-là qui va nous parler des sciences, etc., etc. Alors il faut à ce moment-là être très pédagogue. Alors j'ai complètement déconnecté les réticences en disant je suis originaire d'une ville qui porte le nom d'un grand personnage de La Rochelle. Et je me suis fait applaudir facilement.
De toute façon, vous êtes invité permanence ad vitam aeternam et longue soit votre vie. Donc merci beaucoup pour votre conférence et à l'année prochaine.